Vous êtes sur RTL.
Dominique, on va leur jeter un sort à Marina.
Voilà, orage, température en baisse, voilà.
C'est de leur faute.
Fin de semaine, normalement, ça va un peu mieux.
Ouais,
ça.
Là, j'espère qu'on aura des merci, du coup.
Ouais, on va voir. On va réfléchir à tout ça. Merci, Dominique. À demain, 5h, 7h, bien sûr, pour accompagner les auditeurs. Bonjour à vous tous. Ravi de vous ouvrir les portes de RTL Matin. Ce sont 2h15 pour vous expliquer les choses. La quatrième vague, c'est concret. Les contraintes de l'exécutif aussi. Le président Macron veut vacciner la France et hausse le ton. Vaccination obligatoire pour le monde médical, c'est décidé. Et les mauvais élèves seront sanctionnés. Le pass sanitaire, lui, sera étendu très vite, obligatoire dans les commerces, les cinémas, les restaurants et même dans les transports pour des longs trajets. Alors nous irons ce matin apprécier cette vaccination, quoi qu'il en coûte, dans un bar parisien, sur les plages de l'Atlantique, dans les transports. On vous entendra face à cette nouvelle donne et nous écouterons nos invités, un politique, le député Christophe Castaner, un infectiologue, le docteur Davido et le patron des petites et moyennes entreprises, François Asselin. Dossier complet donc dans RTL Matin sur cet été du vaccin. Bienvenue à vous tous, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et ça commence avec l'actualité et le journal Isabelle Choquet. Bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Nous voilà donc prévenus, le pass sanitaire va devenir un élément de notre quotidien.
Indispensable pour aller au cinéma, dans les bars, les restos. Les salariés de ces établissements sont également concernés, ce qui risque de poser un sérieux problème au patron. Une incitation très forte à se faire vacciner. Les soignants, eux, seront carrément obligés. Et plus globalement, tous les professionnels qui travaillent avec des personnes vulnérables, ceux qui refuseront, pourraient être privé de salaire. Effet immédiat des annonces présidentielles, les Français se sont rués sur le site Doctolib. Plus de 900 000 rendez-vous ont été pris dans la seule journée d'hier. À suivre également le défilé du 14 juillet. En ce moment, l'armée de l'air recrute d'anciens pilotes d'Airbus mis sur la touche par le Covid. Et puis cette météo qui pourrit nos vacances, elle pourrit aussi les vignes. Nous serons en Champagne dans ce journal.
RTL Matin.
Faire peser les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous, voilà donc la philosophie d'Emmanuel Macron face à la montée du variant Delta.
Dans son allocution d'hier soir, le président a annoncé notamment une extension du pass sanitaire. Jusqu'ici, il était nécessaire pour les grands événements rassemblant plus de 1000 personnes. Dès la semaine prochaine, il intègre notre quotidien.
Dès le 21 juillet, le pass sanitaire sera étendu aux lieux de loisirs et de culture. Pour tous nos compatriotes de plus de 12 ans, il faudra, pour accéder à un spectacle, un parc d'attractions, un concert ou un festival, avoir été vacciné ou présenter un test négatif récent. À partir du début du mois d'août, et cela parce qu'il nous faut faire d'abord voter un texte de loi et le promulguer, le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Là encore, seuls les vaccinés et les personnes testées négatives pourront accéder à ces lieux, qu'ils soient d'ailleurs clients, usagers ou salariés.
Le pass sanitaire pour aller au cinéma, boire un verre ou dîner, et même pour les salariés, dit Emmanuel Macron. La nouvelle est tombée comme un coup de massue pour David Zenouda, représentant de l'UMI à Paris. Il possède 6 établissements dans la capitale.
C'est la mort de nos commerces, purement du suicide. Qui peut penser que les gens qui vont rester une fois par mois vont aller courir se faire vacciner pour nous faire plaisir? Avec l'absence des touristes, seulement 39% des Français vaccinés. Donc c'est tout autant de clients qui ne viendront plus chez nous. Donc on s'attend à ce que l'été soit vide de chiffre d'affaires et que la rentrée soit difficile. Parce qu'en fait, entre la première et la deuxième dose, il y a quand même un certain délai. Ça va être compliqué. Le personnel, je sais pas quoi en faire. Si on va lui dire quoi, non, t'es pas vacciné, tu viens pas travailler aujourd'hui. Ils ont tous besoin de travailler. Est-ce que le chômage partiel va prendre en charge les personnes qui sont non vaccinées? Tout ça, c'est des questions qu'on, pour l'instant, on n'a pas de réponse.
Propos recueillis pour RTL par Vincent Serrano. Emmanuel Macron n'est pas allé jusqu'à rendre le vaccin obligatoire pour tous, mais on l'a bien compris, William Galibert, il met un coup de pression phénoménal sur les non-vaccinés.
Oui, le président choisit de mener la vie impossible à ceux qui ne veulent pas du vaccin. Certes, il n'est pas rendu formellement obligatoire, mais sans vaccin, plus de vie sociale, pas de café au comptoir, pas de resto, pas de ciné, pas d'avion, pas de TGV. Ou alors avec un test PCR qui deviendra payant à partir de l'automne. Ça va faire bouger les indécis et tous ceux qui n'étaient pas très pressés, espère un conseiller d'Emmanuel Macron. À l'Élysée, on veut croire que les anti-vaccins purs et durs ne sont finalement pas si nombreux dans le pays. Le chef de l'État, lui, aurait voulu se projeter davantage sur la suite. Les réformes, celles des retraites. Mais à chaque fois, il a dû rappeler qu'avant de faire quoi que ce soit, il faudrait une situation sanitaire stable. Comme un aveu d'échec pour celui qui comptait réformer jusqu'au dernier jour de son quinquennat.
William Galibert du service politique d'RTL. Et William le disait, hein, pour ceux qui voudraient échapper à la vaccination en multipliant les tests, sachez-le, dès cet automne, ils seront payants, sauf sur ordonnance.
Alors, pas d'obligation vaccinale pour la population en général. En revanche, Isabelle, les soignants, eux, vont être contraints. Hein.
Obligation de se faire vacciner d'ici le 15 septembre, et pas seulement les soignants, hein, cela concerne en fait tous les personnels des hôpitaux, des EHPAD, tous les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées, y compris à domicile. Emmanuel Macron a prévenu, il y aura des contrôles et des sanctions. Les non-vaccinés ne pourront plus travailler et ne seront plus payés. Ça, c'est ce qu'a dit Olivier Véran dans la soirée. Des propos nuancés par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.
Il y a une échelle des sanctions qui est assez classique dans le droit du travail, y compris pour des professions, comme c'est le cas pour les professions de santé, où il y a une obligation de vaccination, qui vont de l'avertissement, de la mise en demeure, jusqu'au fait de ne plus pouvoir travailler et donc de ne plus être payé. Voilà, c'est ça, ça va être ça la sanction ultime, entre guillemets. Mais encore une fois, moi je ne me place pas dans cette optique-là, parce que je suis absolument convaincu que la quasi-totalité des soignants iront se faire vacciner parce qu'ils ont conscience de la gravité de l'enjeu. Moi, je ne considère pas qu'il y ait des soignants irresponsables. Ils ont été incroyablement responsables et dévoués depuis le début de cette crise. Il y a peut-être des soignants qui doutent. Et ils ont le droit de douter, on est tous humains. Il y a peut-être des soignants qui sont inquiets. Malheureusement, on n'est plus dans le temps où on peut douter.
Gabriel Attal, hier soir chez nos confrères de BFM TV. À croire que la méthode forte est efficace, dans les minutes qui ont suivi l'allocution du président, le site Doctolib a été pris d'assaut, 20 000 prises de rendez-vous par minute, avec un long temps d'attente pour accéder à la plateforme. Dans la journée déjà, certains avaient anticipé, 212 000 rendez-vous avaient été réservés pour une première injection ce week-end. On n'avait pas vu ça depuis un mois. Au vaccinodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le plus grand de France, les prises de rendez-vous ont bondi de 40% la semaine dernière. Zoé Pallier.
Du monde de nouveau dans les coursives du Vélodrome. Après des semaines de rendez-vous laissés vacants, le centre affiche quasi complet.
Ça donne du baume au cœur. Ça nous fait travailler, ça nous fait plaisir.
Dans la file d'attente, beaucoup de visages adolescents.
Votre date de naissance ?
8 décembre 2005.
Alors, je vous laisse enlever votre manche, s'il vous plaît.
Pourquoi est-ce que tu viens aujourd'hui te faire vacciner ?
Ça va me permettre d'être plus libre et de rejoindre mes amis.
Ethan, lui, a 14 ans. Il est venu avec ses parents. Fin août, il partira en colo à La Rochelle, sans passer par la case test PCR.
On arrêtera de me mettre des bâtons dans le nez, mais on m'a un peu forcé quand même.
Je ne l'ai pas forcé, mais je sais qu'après, à long terme, ça va être obligatoire, on va me le faire maintenant.
Et vous, monsieur, première dose demain ?
Oui, tout à fait. C'était de se dire, à un moment donné, on ne va pas pouvoir ne pas faire quelque chose juste parce qu'on n'a pas le vaccin, quoi.
La peur des restrictions a fini par dépasser celle des effets secondaires du vaccin. Pour Asna, 32 ans.
J'hésitais. Et puis, la propagation du variant Delta, ça fait peur. Donc, du coup, on se dit, il faut se faire vacciner. Sinon, on ne pourra jamais s'en sortir de cette épidémie.
Grâce à cette reprise, les responsables du vaccinodrome espèrent de nouveau tenir leur objectif, celui de 300 000 doses injectées dans le centre d'ici juillet.
Reportage RTL de Zoé Pallier. Outre la crise sanitaire, Emmanuel Macron a donné le cap de ses réformes hier soir. Celle de l'assurance chômage, actuellement suspendue par le Conseil d'État, devrait entrer pleinement en vigueur en octobre. Quant à la réforme des retraites, elle sera remise sur les rails dès que la reprise sera bien assurée. Le président a confirmé la fin des régimes spéciaux et le report de l'âge de départ. Il a répété aussi son engagement d'une pension minimum de 1000 euros pour toute carrière complète.
7h07, demain, c'est le 14 juillet, la fête nationale. Et cette année, le défilé sur les Champs-Élysées et de retour.
Là aussi, il faudra un pass sanitaire pour y assister. Pas question de tomber le masque. En plus, il y aura une jauge. Bref, pour avoir de la place, il faudra quand même se lever tôt. Comme d'habitude, ça commencera par un défilé aérien avec la patrouille de France en tête. L'armée de l'air qui cherche désespérément des pilotes. Oui, en effet, ces derniers mois, la flotte s'est modernisée avec la livraison de nouveaux avions, les A400M, les A330 Phoenix. Mais les possibilités de formation sont limitées. Les militaires sont donc en train de draguer des pilotes d'Airbus, Brice Dugénie.
Oui, pour la première fois, l'armée de l'air a lancé un appel à candidature destiné aux pilotes civils, des professionnels déjà formés et rapidement opérationnels sur les avions de transport militaire. Julien, 42 ans, 8000 heures de vol, dont la moitié sur un A330, a postulé après son licenciement à cause de la crise du Covid.
J'étais commandant de bord A330 chez Hong Kong Airlines. Comme dans beaucoup de compagnies qui ont été frappées par la crise, j'ai perdu mon emploi et très rapidement après, l'armée de l'air a publié cette annonce pour recruter des pilotes qualifiés sur A330.
Celui qu'on appelle désormais capitaine Julien n'avait jamais envisagé d'enfiler une combinaison kaki.
J'avais absolument jamais pensé devenir militaire. Et c'est l'opportunité qui s'est présentée. C'est une opportunité rare, comme il s'en présente pas beaucoup dans une carrière.
Et dans le cockpit, il n'est pas dépaysé.
Toute cette partie-là, écran de contrôle, ce sont les mêmes. La partie pilotage ici ressemble complètement à la partie civile. Ce qui va réellement changer, en fait, c'est la partie carburant. Ça, en revanche, c'est totalement nouveau. C'est purement militaire, c'est purement les opérations de ravitaillement.
Au cours de l'interview, des rafales se succèdent sous les ailes de l'avion pour ravitailler en carburant. Une nouvelle mission pour le capitaine Julien.
Ce qui change réellement, ce sont les opérations de ravitaillement. Beaucoup de nouvelles procédures, des manœuvres de rejointe, de contact, du vol en formation. Ça, c'était totalement nouveau pour moi et je ne pratiquais pas dans le civil. En termes de finesse et de précision du pilotage, c'est beaucoup plus précis. Ça, c'est à cause effectivement de la rejointe avec les chasseurs et ensuite du vol en formation.
12 pilotes civils ont ainsi été recrutés. D'autres pourraient bientôt les suivre pour combler les besoins de l'armée de l'air.
Un reportage RTL signé Brice Dugénie. L'affaire avait fait grand bruit il y a 2 ans. Une petite fille de 2 ans à peine avait été gravement intoxiquée dans un restaurant de Pornic. Elle avait bu du détergent en pensant que c'était du jus de raisin. Le jugement est tombé hier. Le gérant de l'établissement et la société sont condamnés à des amendes avec sursis. En revanche, le propriétaire qui était poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui est relaxé. Marina nous le disait tout à l'heure, il fait toujours un temps de cochon sur une bonne partie de la France. 5 départements de l'Est sont même en vigilance orange, pluie, inondation. Et c'est une catastrophe pour les vignes, par exemple, en Champagne. Reportage RTL de Samuel Goldschmidt à Vrigny, près de Reims.
Sur ces coteaux de Vrigny, d'où l'on voit au loin la cathédrale de Reims, Benoît Ferry a mesuré 120 mm de pluie depuis 30 jours. Normalement, vers juillet, c'est 55 mm en moyenne. Et même un profane remarquera vite que la vigne change.
Donc on peut voir des taches jaunâtre sur les feuilles et surtout des pigments blanchâtres sur les grains de raisin.
Ça ressemble pour moi à de la moisissure.
Oui, c'est une moisissure, c'est un champignon. Alors, c'est un champignon algue. Oui, donc lui, dans l'eau, il se plaît bien dans l'eau. Et à savoir que le grain de raisin qui est touché par le mildiou n'ira pas à la vendange.
Et ça n'est que le dernier coup de massue en date d'une année maussade.
Donc on a commencé par le gel de printemps, moins 4, moins 5, mais avec de l'humidité. Après, on a eu la grêle, les orages, la pluie, du fort vent qui en fait soit cassé des brins de vigne, soit étaler complètement la vigne, donc qui ont facilité en fin de compte l'accès au mildiou, aux feuilles, aux raisins.
Et certains producteurs commencent à avoir des attaques d'oïdium, un autre champignon. Quant à la météo, elle continue à annoncer de la pluie.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Reportage RTL de Samuel Goldschmidt. Le Tour de France, la 16e étape emmène aujourd'hui le peloton entre Andorre et Saint-Gaudens avec 4 côtes répertoriées au programme, dont un col de première catégorie. Le Slovène Tadej Pogacar est toujours en jaune. Et puis le sport aujourd'hui, c'est aussi le rugby. Le 15 de France défie les Wallabies à Melbourne. Voilà plus de 30 ans que les Bleus ne se sont pas imposés en Australie. C'est le deuxième test match de cette tournée d'été.
Deauville pour les courses, Isabelle.
Et les pronostics de Jordan Philippi, le 2, le 10, le 9, l'As, le 7, le 12 et le 4. 2, 10, 9, à 7, 12, 4. La dernière minute de Jordan, c'est le 10 à Clam.
C'est tout bon, c'est noté. Merci Isabelle Choquet. Bon réveil à tous, il est 7h12.
RTL, un été en France.
Un été en France.
Et la carte postale du matin nous arrive de Bretagne pour un bon bol d'air frais et d'embrun. Bonjour Nicolas Bobby.
Bonjour.
Donc vous êtes dans le Morbihan, sur la presqu'île de Quiberon, aux côtés d'un ancien Parisien revenu dans sa Bretagne natale pour assouvir ses deux passions.
Ce jeune artiste de 28 ans a l'œil rivé derrière le viseur de son appareil photo.
Bonjour, alors je m'appelle Louis Métivet et je suis photographe de mer à Quiberon. Avant, je travaillais dans la communication, plus en région parisienne, pour des émissions de télévision. Je suis en revanche né à Quiberon, amoureux de cette presqu'île, amoureux de la mer. Et donc maintenant, je me consacre totalement à ma passion qui est la photo.
Louis vient d'ouvrir Seaside de sa galerie, mais c'est en tenue orange avec un casque jaune sur la tête qu'il adore prendre la mer.
Donc là, on est à bord du SNS 712, notre semi-rigide de la SNSM, et on part pour une patrouille autour de la presqu'île de Quiberon avec mon équipage. C'est un engagement bénévole. On intervient de jour comme de nuit.
Au restaurant La Mer à Boire, le photographe sauveteur vient d'installer un cliché géant du phare de la T-News.
Salut Louis.
Ça va Fred?
Et toi?
La forme, ouais.
Bah ouais, impeccable.
Alors là, le tirage, il fait 6 mètres de long, c'est ça Fred?
6 mètres sur 1 mètre, ouais. C'est vraiment top.
Ouais, parce qu'avec les LED derrière, du coup, derrière la photo, ça claque le soir.
Ouais, la côte sauvage, le chemin des douaniers, la pointe du Conguet, même à l'intérieur, vers le sémaphore et tout. Il y a vraiment plein de choses à faire, des balades à pied, à vélo.
Justement, la presqu'île de Quiberon a fait craquer Sylviane et Michel, propriétaires depuis 5 ans d'une résidence secondaire.
Bah, la beauté des paysages.
On a l'impression qu'à chaque fois, c'est un paysage différent.
Par rapport à Rouen, il ne fait jamais mauvais une journée entière.
À Port-Aliguin, près des petits bateaux de pêche, Louis Métivet passe à l'action.
Il y a de très beaux reflets sur l'eau. J'utilise justement ces reflets des bateaux de pêche, des bouées sur l'eau pour faire de belles images.
Quel conseil vous donneriez aux très nombreux photographes amateurs qui viennent ?
Alors c'est vrai que c'est toujours un peu plus beau au lever du soleil ou au coucher du soleil. C'est là où on a les plus belles lumières et c'est des moments magiques, surtout en pleine saison comme ça en été. Les couchers de soleil qui se couchent vraiment dans l'eau, ça c'est sublime. Vitesse lente quand on est en fin de journée, plutôt sur trépied, c'est mieux pour éviter que ce soit flou. Alors maintenant, avec les smartphones, on peut faire aussi de très belles photos. Tout est en automatique là pour le coup, mais ça marche aussi très bien.
Dans sa galerie, les photos de la côte sauvage font tout rêver.
Alors la côte sauvage, c'est des falaises tout le long. C'est des paysages vraiment merveilleux. Une mer, un océan, parfois déchaîné lors des tempêtes, mais qui peut être aussi très calme et magnifique. De belles vagues pour les surfeurs, c'est aussi un bon spot de surf. Les couleurs changent tous les jours. Et comme on dit ici, on peut avoir les quatre saisons dans une même journée. Pour la photo, c'est fabuleux.
Sans oublier le château Turpot avec ses flèches de pierre et ses tourelles, un sublime manoir, les pieds dans l'eau, que tous les vacanciers photographient.
Le Morbihan et ses quatre saisons, un été en France qui nous aère tous les matins. C'est Nicolas Bobby, RTL en Bretagne. 7h15, je salue François Asselin qui est déjà en studio et en direct. Bonjour à vous.
Bonjour.
Président de la CPME, les confédérations des petites et moyennes entreprises, vous avez des choses à nous dire sur la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir. On vous écoute juste après ceci.
D'ici à 9h, vous serez peut-être l'un des gagnants du grand jeu RTL de l'été. Pour vous inscrire, il vous suffit d'appeler le 3210, 50 centimes par minute, ou d'envoyer RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS, 4 SMS maximum. À gagner 1000 euros cash, mais également des smartphones, des tablettes, des week-ends thalasso ou des vacances en famille. Bonne chance à vous.
Stéphane Carpentier, RTL Matin jusqu'à 9h15.
7h16 en ce mardi, la réforme des retraites, ce sera pas pour tout de suite, le pass sanitaire étendu. Qu'en pense le patronat? C'est donc François Asselin qui est en direct et en studio, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Emmanuel Macron, François Asselin, l'a annoncé hier soir aux Français, la réforme des retraites se fera quand les conditions sanitaires seront réunies. Elle n'est pas abandonnée, mais il n'y a pas de date.
Oui, donc dans cette affirmation, il y a déjà la réponse, c'est-à-dire qu'elle ne se fera pas avant la fin du quinquennat. En revanche, on va autour du Premier ministre, dès la rentrée, travailler sur le fond de cette réforme. C'est pas du temps perdu, on a quand même pendant 18 mois travaillé ce projet de réforme qui aujourd'hui est enterré, hein, tel qu'il était prévu, hein, la réforme des retraites universelles. En revanche, il y a encore beaucoup de choses effectivement à mettre sur la table. Le président de la République a donné quelques pistes hier soir, c'est-à-dire que s'il faut allonger la durée de vie au travail, eh bien, en revanche, il y a des professions qui physiquement sont plus exposées que d'autres. Que faire pour ces longues carrières ? Partiront-elles en retraite plus tôt que d'autres ? Nous sommes favorables, nous, à ces dispositions. Les petites retraites, hein, le minimum contributif, à savoir quand vous êtes agriculteur et que vous avez travaillé pendant toute votre vie, parfois très longtemps, pendant de nombreuses heures, souvent, tous les jours de la semaine, eh bien, partir en retraite avec un minimum contributif de 1000 euros, ça nous semble tout à fait justifié. Et puis, bien évidemment, il y a cette fameuse mesure d'âge. Eh bien, là, les partenaires sociaux autour du Premier ministre vont pouvoir, bien évidemment, travailler sur le sujet, tout en sachant que ça n'aboutira pas avant la fin du quinquennat.
Ouais, François Asselin, vous disiez récemment, plus tôt on la fera, moins ce sera douloureux. Est-ce que vous ne regrettez pas que ça ne soit pas pour plus tôt que ça ?
Ah, vous savez, c'est pas à moi qu'il appartient de décider quand se fera cette
mais
réforme.
Mais en tout cas, ça va pas plus vite. En tout cas, vous regrettez.
Oui, pourquoi ? Parce que à partir du moment où on sait quelle sera la réalité, à partir du moment où on sait que très certainement le seul moyen d'équilibrer notre régime, eh bien, c'est de travailler plus longtemps. Eh bien, plus on attend, plus la réforme risque d'être douloureuse pour tous les actifs. Et bien évidemment, nous sommes très attachés aussi à l'égalité de traitement entre la fonction publique et le secteur marchand. En clair, la clause du grand-père telle qu'elle est était plus ou moins subodoré par le chef de l'État, nous plaît pas trop.
Ouais, les régimes spéciaux supprimés pour les futurs entrants, ça vous semble indispensable pour la future réforme ?
Bah, écoutez, pourquoi, si vous êtes dans le secteur marchand, le secteur privé, et vous êtes dans le secteur public, vous ne seriez pas logé à la même enseigne ? Il nous semble que si nous devons faire des efforts, quel que soit notre statut, nous devons faire les mêmes efforts.
Alors l'avantage que cette réforme des retraites soit repoussée à loin, en tous les cas à une date indéterminée, ça évitera peut-être la colère sociale de la rentrée, les cortèges ?
On aura, par rapport au sujet des retraites, toujours des oppositions farouches. On le sait bien. En clair, pour l'exécutif, c'est faire son choix entre des cortèges en 2021 ou des cortèges potentiellement en 2022. En attendant, nous allons, autour du Premier ministre, mettre le sujet sur la table à la rentrée du mois de septembre, la CPME tiendra sa place.
Les mesures sanitaires, François Asselin, le pass sanitaire obligatoire dans les transports, mais aussi dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans les cafés, dans les transports longue distance. Est-ce que ça va être faisable? Est-ce que ça va être gérable pour les patrons, ça?
On n'a pas le choix. Clairement, c'était écrit. On voyait bien qu'autour de nous, ça se resserrait.
Donc ça va être compliqué, si je comprends.
Ça va pas être simple. Pourquoi? Parce que d'abord, ça nous met, nous, employeurs, dans une situation qu'on n'aime pas trop. Position un petit peu de père fouettard avec nos salariés, avec nos clients. Donc c'est une situation qui sera pas confortable. En attendant, vous savez, c'est peut-être le moins mauvais des choix. Parce que soit c'est le confinement avec l'arrêt de pan entier de l'économie, et là vous savez quel grabuge ça peut créer dans nos entreprises, surtout de petite taille. Et puis l'autre mesure, eh bien c'est effectivement, et on s'y dirige tout droit, c'est une quasi-vaccination obligatoire si on veut continuer de vivre normalement.
Vous êtes pour ça?
Je ne suis ni pour ni contre, c'est un constat. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'autres choix, malheureusement. Comme je vous le dis, c'est peut-être le moins mauvais des choix. En attendant, il y a beaucoup de questions auxquelles nous devons répondre et dont nous n'avons pas toujours la réponse. C'est-à-dire que si un salarié demain ne veut pas se vacciner, que doit-on faire? Nous sommes soumis au secret médical vis-à-vis de nos salariés. Eh bien, ce secret médical, bien évidemment, va sauter parce qu'il faudra bien qu'on sache qui est vacciné, qui ne le sera pas. On aurait pu peut-être anticiper un petit peu mieux les choses. Vous voyez, lorsque on avait demandé, et on était très ouverts, nous, à la CPME, à ce que nous puissions vacciner dans nos entreprises, on nous rétorquait qu'il fallait préserver le secret médical, on le comprend tout à fait. Et puis, on devait passer obligatoirement par la médecine du travail. C'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de médecins du travail, ils ne peuvent pas aller dans toutes les PME. On aurait pu faire appel à un médecin généraliste, à un infirmier, à un pharmacien qui vienne vacciner l'entreprise, ça n'était légalement pas possible. Aujourd'hui, bien, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup.
Je voudrais vous entendre sur les salariés. Est-ce qu'ils doivent se faire vacciner sur leur temps de travail? Comment on peut gérer ça dans les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient petites ou plus grandes? Le MEDEF, par exemple, se dit OK à condition qu'il ne pose pas une journée ou une demi-journée pour ça.
Généralement, nous sommes dans nos entreprises dans un dialogue serein et pas contraint. C'est-à-dire que ce genre de situation, on sait très bien les gérer dans nos entreprises à taille humaine. En revanche, entre nous, quand vous voyez le nombre d'endroits où on peut se faire vacciner, 7 jours sur 7, excusez-moi, mais s'il faut payer les gens pour les faire vacciner, bon, c'est un petit peu bizarre.
Les aides, le quoi qu'il en coûte, on maintient jusqu'à quand?
Grande question. Moi, je me mets à la place aujourd'hui de mes amis réunionnais, de mes amis martiniquais, de mes amis restaurateurs, de tous ceux qui sont, par leur activité, obligés d'accueillir du public. Eh bien, ils ont de grandes inquiétudes. Pourquoi? Parce que, on l'a entendu dans vos reportages, eh bien, certains restaurateurs se disent, eh bien, est-ce que je vais pouvoir maintenant avoir assez de chiffre d'affaires, en clair, assez de clientèle pour tenir économiquement mon commerce? C'est une vraie question. Dès ce matin, bien évidemment, je prends rendez-vous avec Bruno Le Maire pour accompagner ceux qui vont souffrir.
Ça va vous faire des rendez-vous, tout ça, hein, François Asselin?
On est habitué, c'est mon job.
Cette quatrième vague à venir, c'est pas bon pour l'économie, qui depuis un an et demi ferme marche avant, marche arrière. On a un peu l'impression d'être dans un bouchon sur la route, ça avance, ça freine, ça repart.
C'est pas faux. Et en même temps, vous avez ce fameux plan de relance qui est tout sauf factuel. Alors il faudra bien évidemment peut-être re-régler ce plan de relance dès la rentrée. Il y a environ 37 milliards d'euros qui aujourd'hui ont été consommés sur une enveloppe de 100 milliards d'euros. On a l'impression de la CPME que ça irrigue pas complètement les territoires et les PME. Donc on va être très attentif à la façon dont cette enveloppe restante va irriguer l'économie. C'est important pour nos entreprises, c'est important pour le pays.
François Asselin est vigilant. Merci d'avoir partagé tout cela avec nous en direct ce matin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Il est 7h23, bonjour à tous ceux qui arrivent. La musique, la pépite, c'est après ça.
RTL, toujours avec vous.
RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On vous retrouve avec plaisir comme chaque matin pour notre pépite musicale quotidienne. Quel est le programme aujourd'hui?
Alors, on va écouter une version du premier succès mondial d'Elton John, la chanson Your Song, sortie fin octobre 70 en face B de 45 tours. Elle a vite pris la première place. On estime qu'il en existe aujourd'hui plus de 300 versions. Michel Delpech l'a chantée en français sous le titre C'est ta chanson. Je vous le conseille, on l'écoutera un autre jour. Mais je vous propose aujourd'hui une version récente, validée et encouragée par Elton John lui-même. En 2017, alors qu'il travaillait sur un album de reprise de ses chansons, Elton John a décroché son téléphone pour demander à la marraine de ses deux fils, Zachary et Elijah, d'être dans le disque avec une chanson bien précise, Your Song. La marraine des enfants, c'est Lady Gaga. La star est donc entrée en studio à Los Angeles pour enregistrer Your Song. C'est notre pépite du jour. Lady Gaga chante du Elton John.
I sat on the roof and kicked off the moss with a few of got me quite cross, but the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it tender. So excuse me for getting these things I do, you see. I've forgotten if they're green or they're blue.
Par Lady Gaga. C'est plus du tout la déclaration d'amour faite un genou à terre, les yeux baissés, hein, par Elton John. On est dans un cri puissant, frontal. C'est pas évident de passer après Elton John, mais elle s'en sort magnifiquement. Elle se démarque de cette façon. On trouve sa version sur l'album Revamp, hommage à Elton John sorti il y a 3 ans. Elton John et son parolier Bernie Taupin ont raconté avoir écrit Your Song en 1969 au petit déjeuner chez la mère d'Elton John sur la table de la cuisine.
Comme quoi on peut être créatif à tout moment. Hein.
Pour eux, oui.
Pour eux,
ce sont des gens. Non, on a essayé, mais on n'a pas réussi. Anthony Martin et sa pépite musicale.
La mission des grosses têtes sur RTL, nous instruire et nous faire rire, mission accomplie toute cette saison. Laurent Ruquier vous attend donc pour le meilleur cet après-midi à 15h30.
Ma grand-mère avait une très grande amie, grande, merveilleuse peintre, qui s'appelle 75. Tamara de Lampica. Et moi, je suis allée cueillir des hibiscus.
Bien sûr. Il n'y a pas un mot normal dans cette phrase.
On a l'impression que c'est la dictée de Bernard Pivot. Ouais.
Et donc, moi, en cueillant l'hibiscus...
Et donc, moi, attends, et donc, moi, en cueillant l'hibiscus, virgule, d'un regard asymptote...
Allez-y, faites-la, la dictée.
D'un regard asymptote, virgule, je m'assois sur un strapontin d'une délicatesse inouïe, inouïe, virgule, point à la ligne.
Et alors, et alors ?
Et alors, je vois une main...
concomitante.
Les grosses têtes, merci pour tout ça. Rendez-vous donc avec Laurent Ruquier cet après-midi, 15h30, 18h. 7h27, les amis. Louis Baudin, ce matin, est venu avec son 40.
Vers Paris, vers les régions du Nord, et puis après, il redescend sur la moitié ouest. Et puis, il tourne comme ça sur toute la France, accompagné de pluies, d'orages en ce moment sur les Alpes, d'averses dans la plupart des autres régions. Et ça va être comme ça toute la journée. Donc, c'est une journée exécrable, autant le dire. Quasiment partout. Alors, peut-être sur la pointe bretonne, vous passerez un peu à l'écart des averses. Ça, c'est un peu le cas sur le Finistère. Et puis, près de la Méditerranée, là aussi, vous aurez un peu plus de soleil, mais vraiment sur le littoral. Il faut être en bord de mer, mais avec là beaucoup de vent. Quand on est sur la plage, 90 km/h de Mistral, c'est pas forcément agréable. Donc voilà, une journée encore très agitée, le tout avec des températures très... J'ai trouvé 7 degrés en ce moment du côté de Mende, 10 degrés à Millau, ou encore au plus, on est souvent entre 10 et 15 degrés. Avec cette humidité, c'est très désagréable. Et cet après-midi, 18 à 21 degrés au nord comme au sud. On devrait dépasser les 25 degrés. Il n'y a que près de la Méditerranée ou à l'abri du vent, nous serons entre 26 et 31 degrés.
Un mardi d'enfer dans le ciel.
Oui, c'est ça.
Petit début d'amélioration à partir de demain. Petit, j'ai dit. Hein.
Merci Stéphane. Oui, c'est vrai, quand même, on devrait aller vers le mieux. Vous avez raison. Petit à petit, quand même, pour la fin de semaine.
La patience qui s'impose, évidemment, face au ciel. Les caprices de la météo. Louis Baudin, merci d'être là. Merci de nous avoir choisis. C'est RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et à 7h30, c'est le Tout Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce mardi.
Un masque, un ticket de cinéma et un pass sanitaire, c'est ce qu'il faudra à partir du 21 juillet pour voir un film. Emmanuel Macron a annoncé hier soir la généralisation du pass sanitaire pour les lieux de culture et de loisirs d'ici 8 jours. C'est l'incompréhension totale et la colère pour Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français.
Pourquoi on discrimine la culture ? Le cinéma, c'est la grande réussite de ce déconfinement. Près de 20 millions de spectateurs depuis la réouverture. Pas un cas de Covid déclaré, pas un. Et alors nous, le 21, on doit faire le pass sanitaire. Mais comment voulez-vous qu'on fasse ? Vous imaginez un jeune qui va vouloir aller se faire vacciner pour aller au cinéma, il faut qu'il attende 35 jours pour avoir son pass sanitaire. Donc même s'il veut se faire vacciner, il ne peut pas aller au cinéma. Et il va aller faire un test PCR qu'on va rendre payant à 40 euros pour aller au cinéma. Pourquoi à ce point-là, on nous attaque ?
Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français, invité hier soir d'Olivier Bois dans l'édition spéciale de RTL. Puis début août, il faudra un pass sanitaire pour vous rendre dans les cafés, les restaurants ou pour faire de longs trajets en transport, un certificat de vaccination complet donc, ou un test PCR négatif de moins de 48 heures. Mais attention, à partir de l'automne, ils ne seront plus remboursés, il vous faudra une prescription médicale pour un test.
L'autre annonce qui était attendue, la vaccination obligatoire pour les soignants.
Les soignants et tous ceux qui travaillent avec du public vulnérable, il faudra avoir reçu ces deux doses avant le 15 septembre. Sinon, des sanctions seront appliquées comme la mise à pied ou un retrait de salaire. Pour Denis Fischer, vice-président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants, la simple obligation aurait clairement suffi.
Nous sommes dans une profession du soin et je pense que nous devons nous faire vacciner pour nous protéger nous, mais pour protéger aussi ceux que l'on soigne. Après, la façon dont c'est dit, je trouve que c'est très dur. Qu'on oblige, oui, mais de là à dire aux soignants que ben voilà, ils seront plus payés s'ils ne se font pas vacciner, c'est un peu rude, c'est un peu rapide. Je pense que le fait de dire que le vaccin est obligatoire aurait suffi.
Denis Fischer, vice-président de la Fédération nationale des associations d'aides-soignants, joint par Nathan Bocard. Et dans la foulée de ces annonces, les plateformes de prise de rendez-vous ont été saturées. 926 000 créneaux réservés sur Doctolib sur l'ensemble de la journée d'hier. Et si ce n'est toujours pas votre cas, vous recevrez peut-être un SMS ou un mail de votre laboratoire d'analyse. Ils peuvent désormais vacciner des patients. Le docteur François Blanchecotte est le président du syndicat des biologistes.
Les laboratoires ont été sollicités pour essayer de réécrire, envoyer un SMS ou un mail à l'ensemble des patients qu'ils ont eu dans leur laboratoire de façon à solliciter ceux qui ont eu un test positif. De leur dire, vous êtes venu dans notre laboratoire, si ce test on vous l'a rendu positif, alors vous pouvez vous faire vacciner par une seule dose et nous sommes à votre disposition de façon à avoir cette injection. On voit à peu près 500 000 patients par jour, donc c'est quand même énorme et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument mettre toutes les forces dans la bataille pour essayer de convaincre, de pouvoir leur expliquer, leur dire c'est très très important de vous faire vacciner.
François Blanchecotte, président du syndicat des biologistes, joint par Agathe Landais.
Alors la vaccination des soignants, les sanctions, mais aussi le renforcement du pass sanitaire, voilà de belles occasions de dialoguer tout à l'heure avec notre invité à 8h15. C'est le docteur Benjamin Davidot qui sera là, infectiologue et référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
Emmanuel Macron a aussi fait beaucoup d'annonces sur le plan économique et notamment l'entrée en vigueur à partir du 1er octobre de la réforme de l'assurance chômage. Et concernant la très polémique réforme des retraites, elle sera engagée dès que les conditions sanitaires seront réunies. Mais ce n'est clairement pas la priorité, selon Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière.
Très franchement, non, ce n'était pas la priorité. Je pense que la population et les salariés sont particulièrement inquiets. Il y a cet enjeu de la vaccination. Ça n'est pas simple à faire passer comme message. Je crois que ce n'était pas utile de rajouter qu'il va falloir travailler plus longtemps, alors qu'aujourd'hui, le sujet du moment, c'est l'emploi. Faire en sorte que tout le monde aille à un emploi de qualité. Et je pense que voilà, la retraite, c'est franchement pas le moment. Et si le président de la République veut se montrer combatif, eh bien moi, je lui dis que nous sommes aussi combatifs.
Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière, joint par Nerissa Emmanuel.
L'actualité, 7h34, c'est également le jugement rendu à Saint-Nazaire après l'intoxication d'une petite fille au détergent.
L'affaire s'était passée dans un restaurant de Pornic en 2019. L'enfant de 22 mois pensait boire du jus de raisin. Son œsophage a été brûlé et elle souffre toujours de séquelles aujourd'hui. Le gérant de l'établissement et sa société sont condamnés à 4 amendes avec sursis. Une décision qui révolte Arnaud, le père de la petite fille.
ce que je ressens, c'est une injustice totale. C'est-à-dire que cette personne, elle aura une ligne dans son casier judiciaire et elle va rien payer, pas d'amende, rien du tout. Et donc moi, ce que je vais devoir expliquer à ma fille, c'est comment ont été condamnés les gens qui ont ruiné sa vie. Et si je dois faire ça avec des mots d'enfant, je vais faire ça avec des comparaisons à l'école. Et donc en gros, le monsieur, il a eu un avertissement à la conduite, il a eu un mot dans son carnet de correspondance. Voilà, c'est ça exactement ce qu'a eu ce monsieur-là.
Le père de la petite fille qui avait été intoxiquée, il répondait à Cindy Hubert.
Le Tour de France.
RTL.
Vélo va, vélo vol.
Fenêtre sur tour.
La voix va, ou vélo va.
Avec Christian Laborde.
C'était repos hier sur la grande boucle. À 13h30, les coureurs s'élancent pour 169 km entre le Pas de la Case en Andorre et Saint-Gaudens en Haute-Garonne, avec toujours Pogacar, leader du classement. Une 16e étape avec 4 côtes au programme. Et que nous raconte Christian Laborde?
Le Tour de France quitte Andorre, retrouve l'Occitanie et Saint-Gaudens, qui a vu gagner dans ses murs Gino Bartali, Charlie Gaulle ou André Darrigade. Saint-Gaudens se souvient surtout de Luis Ocaña, fils d'un républicain espagnol réfugié en France, dont la presse ibérique fait peu de cas. Lors du Tour de France 1970, Luis Ocaña subit une panne de jambe dans les Alpes et songe à abandonner. Soutenu par son équipier Charlie Grosskost, il continue, se refait la cerise et lors de l'étape Toulouse-Saint-Gaudens, attaque à 48 bornes de l'arrivée en compagnie de Walter Gottfroth, d'Andrés Gandarias et d'Evert Dolman. La tentative échoue. Le groupe maillot jaune revient. Luis repart de nouveau à l'attaque. Seul cette fois, avec son œil noir, son maillot orange et ses soquettes blanches qui valsent. Dans la côte de Monsonès, à 24 km de l'arrivée, il a 1 minute 25 secondes d'avance sur les coureurs de la Salvarani et de la Casse qui mènent la chasse. Ils ne le rejoindront pas. Et à Saint-Gaudens, Luis remporte son premier bouquet sur le Tour. Saint-Gaudens, c'est Luis. Luis Ocaña.
Fenêtre sur tour avec Christian Laborde, notre passionné de cyclisme, notre amoureux des mots qui est également acteur. Il sera ce soir sur scène à Pau pour son one-man show Poulidor by Laborde pour retracer la vie de l'immense Raymond Poulidor.
Enfin du rugby aujourd'hui avec à midi la rencontre entre le 15 de France et l'Australie. Deuxième match à Melbourne de la tournée d'été des hommes de Fabien Galthié qui ont déjà perdu il y a une semaine dans les toutes dernières secondes face aux Wallabies et qui n'ont jamais réussi à s'imposer là-bas depuis 31 ans.
Hortense Crépin, toute l'actualité, vous avez tout, absolument tout sur l'appli RTL. Bonjour Anaïs Bouissou.
Bonjour.
Dans l'angle éco, on va bien sûr décrypter le discours du président. Il y a eu le sanitaire mais il y a aussi les réformes.
Oui, les réformes économiques et sociales. Elles sont en pause au moins jusqu'à la rentrée, mais vous allez voir, c'est aussi se projeter plus loin, après 2022 bien sûr, ou comment transformer une latence économique en perspective politique.
Eh bien, on se projette juste après ça.
RTL. Stéphane Carpentier. RTL Matin.
L'angle éco à 7h38 avec Anaïs Bouissou, priorité aux sanitaires. Mais le président n'en oublie pas pour autant les réformes économiques et sociales.
Oui, le président met clairement le cap vers la rentrée. Et au-delà, et vous allez voir ce que vous allez voir. Plan d'investissement pour bâtir rien de moins que la France de 2030. Tout le chantier social remis sur la table. Formation, lutte contre le chômage, emploi pour les jeunes, plan pour l'autonomie. Et bien sûr, la fameuse réforme des retraites. Tout ça, rien de moins, à quelques mois de la présidentielle.
Pardon, mais c'est réaliste en si peu de temps?
Non, c'est pour ça que je vous dis vers la rentrée et au-delà. D'abord, parce que le président n'a pas le choix en ce moment. La crise a fait voler en éclats tout son programme économique et social de fin de mandat. Il se voulait maître des horloges. Il est bien obligé de reconnaître que le maître du temps, c'est encore et toujours le virus. Et ensuite, cette latence, c'est l'occasion de regarder à l'horizon. C'est comme au tir à l'arc. Tendre la corde du temps, l'étirer pour projeter sa flèche plus loin, au-delà de 2022, transformer l'attente en fait en rampe de lancement vers un second quinquennat. Cette ligne, le chef de l'État veut la franchir à travers les réformes économiques et sociales en créant des ponts entre les deux mandats.
Mais alors comment concrètement?
Tenez, l'objectif du plein emploi, tendre vers un taux minimal de 7% de chômage, c'était déjà l'objectif du début de quinquennat d'Emmanuel Macron. Eh bien, il le remet sur la table pour la suite. Réformer l'assurance chômage, c'est ce que le président s'échine à faire depuis 4 ans. Il veut le retenter à quelques mois des élections. Former plus tout au long de la vie, c'est pareil, tout comme les jeunes sur le marché du travail. Alors, l'annonce pour les jeunes, c'est un slogan neuf, le revenu d'engagement pour les jeunes, dont on ne connaît pas encore tous les contours. Mais il y a fort à parier que ce sera plutôt un renforcement de dispositifs existants. La mise en œuvre complète de ces réformes, leur concrétisation, elle sera visible aussi et surtout pour l'avenir, pour la suite.
Et pour la suite, il y a la réforme des retraites.
Oui, le mot retraite est le même, mais c'est en fait le sujet sur lequel Emmanuel Macron a le plus évolué. Il voulait créer un système où on cumule des points. Il n'en parle plus. Il s'était engagé à maintenir l'âge légal de la retraite à 62 ans. Bon, si le projet va jusqu'au bout, les 62 ans, vous oubliez, le président a martelé qu'il allait falloir travailler plus.
Mais il veut toujours réformer.
Ah oui, là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. Quitte encore et toujours à se projeter dans l'après-quinquennat. Même s'il faut attendre que la crise Covid retombe, même s'il faut se contenter de ramener les partenaires sociaux autour de la table dans un premier temps, le président affiche un programme de réforme. Unifier le système, supprimer les régimes spéciaux, augmenter les plus petites retraites et décaler plus ou moins vite l'âge de départ à la retraite.
On doit comprendre quoi, Anaïs ? Que c'est donc le début d'une campagne pour 2022 ?
Oui, une campagne avec plusieurs inconnus majeurs. Hein. D'abord le virus, à quel moment l'épidémie sera vraiment derrière nous ? Et ensuite, le climat social. L'obligation vaccinale va-t-elle réveiller les rancœurs des oppositions politiques, des gilets jaunes, ou au contraire déclencher l'engouement ? Et puis, comment vont réagir les syndicats de salariés ? Négocier ou mobiliser ? Concerter ou faire traîner les débats ? Emmanuel Macron a parlé de la force de notre système social. Eh bien, le poids du climat social sera aussi une force essentielle à la rentrée et au-delà.
Et au-delà, Anaïs Bouissou, l'Anglais Co, ce matin sur RTL, 7h41. Merci de nous rejoindre. Bonjour Benjamin Sportouche.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Votre invité ce mardi,
Christophe Castaner, le chef de file des députés En Marche. Il va devoir mettre en musique les nouvelles directives présidentielles en faisant voter une loi, pas forcément une mince affaire.
Christophe Castaner est masqué, il s'installe en studio, il est 7h42. Entretien à suivre en direct après ceci.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
L'invité de RTL Matin en direct en studio, Benjamin Sportouche, vous recevez ce matin le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour Benjamin Sportouche.
Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Alors, vaccination obligatoire pour les soignants, passe sanitaire largement étendue, test PCR bientôt payant. Franchement, c'est une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom, Christophe Castaner.
Non, c'est le fait que celles et ceux qui refusent la vaccination se mettent en responsabilité. La responsabilité de ne pas se vacciner, c'est celle de faire courir un risque à sa famille, à ses voisins, à ceux qu'on fréquente, au personnel sanitaire et à nos hôpitaux. Et donc, effectivement, il faut qu'ils l'assument.
Oui, mais l'objectif, c'est de rendre la vie impossible à ceux qui ne seront pas vaccinés. Donc, c'est une vaccination obligatoire.
Non, mais c'est inverser le process. C'est-à-dire que parce que nous n'avions pas la solution, c'est le vaccin, il a fallu fermer des établissements comme les restaurants, les cinémas, les bars. Aujourd'hui, on a l'arme de réponse, c'est le vaccin. Et si certains refusent de faire le vaccin, on ne va pas, à cause d'eux, décider qu'on va fermer à nouveau les bars et les restaurants. Donc on fait un choix inverse, c'est celui de dire chacun prend ses responsabilités et en même temps, on fait une vaccination plus simple encore, qui sera possible partout sur le territoire national. Et on voit bien que les Français aussi attendaient peut-être ce petit coup de pression, et les demandes de rendez-vous hier et dans les jours qui viennent, je n'en doute pas, seront la démonstration que tout le monde a conscience que la solution, c'est le vaccin.
Attendre le coup de pression, les Français ont attendu le coup de pression, vous venez de nous dire, c'est-à-dire qu'il fallait sortir le bâton.
Non, certains l'ont attendu, beaucoup sont rentrés dans la logique, d'autres étaient plus impatients encore et on se plaignait que ça ne monte pas assez vite en puissance. Mais ce que je sais, c'est qu'encore la semaine dernière, il y avait chaque jour 200, 300 000 vaccins disponibles et non utilisés, faisant en sorte que les Français puissent se protéger eux-mêmes, puissent protéger ceux qu'ils aiment, puissent protéger aussi la société française.
Petit coup de pression aussi sur les soignants, donc obligation vaccinale pour eux. Vous ne craignez pas qu'il y ait des démissions en cascade pour ceux qui ne veulent pas être vaccinés ? Après tout, c'est leur droit.
Démissionner, le droit de chacun. Par contre, mettre en risque, quand on est professionnel soignant, celles et ceux que l'on soigne, ça n'est pas un droit, c'est une irresponsabilité. Et donc, il me paraît nécessaire aussi de faire en sorte que chacun se vaccine. Mais nous sommes déjà sur de très hauts taux de vaccination, selon certaines professions médicales. Et donc, il est important d'accompagner celles et ceux qui n'ont pas pu le faire, ou celles et ceux qui doutent, pour les rassurer. On a ce devoir-là, et de faire en sorte, avec un délai raisonnable, disons jusqu'à mi-septembre pour cela, que l'on puisse trouver des solutions pour chacun. Il ne s'agit pas de stigmatiser, mais il s'agit là encore de protéger.
Et ils sont maintenant culpabilisés, menacés de ne plus être payés dans une brutalité indécente. Quelle ingratitude, dit Marine Le Pen, justement, à propos de cette obligation vaccinale pour les soignants.
Est-on obligé de commenter les errements de Marine Le Pen, qui, si le président de la République n'avait pas proposé des mesures fermes, serait la première à dénoncer que les mesures ne sont pas assez fermes. Et donc, je ne vais pas commenter les propos de Marine Le Pen. Chacun est mobilisé, a soutenu les professionnels de santé. Et quand nous faisons le Ségur, quand nous augmentons l'ensemble du personnel médical dans nos hôpitaux, je crois qu'on fait œuvre utile plus que de faire du commentaire comme Marine Le Pen.
Vous saviez qu'il disait à propos du pass sanitaire fin avril, ça ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français.
Mais j'aurais pu le dire moi-même.
C'est le président de la République qui le disait.
Mais j'aurais pu le dire moi-même. Mais à ce moment-là, ni vous ni moi n'avions en tête que nous aurions un variant, le variant Delta que nous connaissons, qui a cette capacité à se loger dans tous les interstices de la société française.
Nous savions que nous aurions des variants. Nous avions déjà des variants à l'époque, donc on aurait pu anticiper cela.
Non, mais vous savez, peut-être que dans quelques mois, nous nous reverrons et on constatera qu'il y a un variant qui résiste à la vaccination. Aujourd'hui, je vous dis, la vaccination est la solution. Dans quelques mois, vous pourrez me dire, ah, mais vous avez vu, finalement, ça n'était pas la solution. On voit bien qu'il faut s'adapter à cela. Il y a quelques semaines, on se serait vus tous les deux dans cette émission, nous n'aurions pas parlé de la situation sanitaire. J'ai fait beaucoup de médias au fil de l'année. Il y a quelques semaines, ça avait basculé. Nous ne parlions plus de la situation sanitaire. Le variant D est apparu partout dans le monde, en France aussi, avec la violence de sa diffusion. Et donc, il nous faut nous armer contre
donc
lui.
Donc, le président a changé d'avis sur le pass sanitaire. D'ailleurs, votre majorité, est-ce que vous êtes sûr d'avoir une majorité sur ce texte? Parce qu'il y a encore quelques semaines, eh bien, une partie du Modem et de la République En Marche ne voulait pas entendre parler de ce pass sanitaire pour les activités du quotidien, dont Yaël Braun-Pivet, qui est de chez vous et qui est la présidente de la Commission des lois, et qui avait fait voter un amendement pour cela. Est-ce que vous aurez une majorité? Vous êtes sûr de cela?
Nous aurons un débat et je ne suis pas inquiet sur le fait que nous ayons une majorité parce que les Français attendent que nous mettions en œuvre les mesures que le président de la République a annoncées hier soir.
Ce sera un débat agité, vous pensez ?
Non, il ne sera pas agité. Il sera, comme nous avons l'habitude de l'avoir, un débat où on se dit des choses et ensuite on avance, on vote et on met en place la meilleure façon de protéger nos concitoyens, de protéger nos soignants, de protéger nos hôpitaux.
Alors, il va y avoir des effets économiques, parce qu'on entendait hier sur cette antenne, sur RTL, des propriétaires de cinéma, de restaurants qui sont inquiets du fait que ceux qui ne sont pas vaccinés ne vont pas pouvoir venir, en tous les cas dans les médias, le temps qu'ils soient vaccinés. Est-ce qu'il y aura des compensations pour les salariés qui ne vont pas pouvoir travailler le temps de se faire vacciner? Est-ce qu'il y aura une poursuite du chômage partiel pour eux?
Écoutez, des discussions sont ouvertes dès aujourd'hui avec le ministère de l'économie et des finances et les acteurs et les représentants des professions et nous verrons les meilleures solutions. Mais vous avez raison de souligner.
Vous le souhaitez, vous ?
Non, mais moi je souhaite surtout qu'on mette en place ces dispositifs. Et donc je ne suis pas inquiet sur la capacité, notamment des responsables d'établissement, de les mettre en place. Vous avez cité quelques représentants de professions qui râlaient, j'en ai entendu beaucoup depuis hier soir, dire qu'il fallait mettre en place le pass sanitaire. J'étais la semaine dernière à Strasbourg, j'ai rencontré les représentants des professionnels des cafés, de l'hôtellerie et des restaurants, eux-mêmes me demandaient
les cinémas,
d'élargir.
Très franchement, c'était une activité qui avait un regain énorme et qui se trouve très dépitée aujourd'hui.
Ah mais bien sûr, mais c'est une vraie difficulté. Ce sont des contraintes nouvelles. Alors on peut se dire oui, parce que ça génère des contraintes, on ne le fait pas. Et on regarde pendant ce temps-là les chiffres d'hospitalisation augmentés. Vous savez qu'hier, il y avait 7157 personnes malades du Covid dans les hôpitaux de notre pays. Il y avait presque 1000 personnes en réanimation hier à cause de la Covid dans notre pays. Il y a eu 28 morts. Alors on peut se dire que finalement, ça n'est pas très grave. Moi, je pense que c'est grave. Et surtout, quand on voit qu'on a un virus qui a la capacité à progresser de façon exponentielle, il faut lutter contre. Ah. Et donc, on doit lutter contre et être aux côtés des responsables d'établissements comme les cinémas.
Autre sujet, Christophe Castaner, les retraites. Emmanuel Macron a donc annoncé hier que la réforme serait engagée dès que les conditions sanitaires seraient réunies, tout en expliquant que la pandémie allait durer encore en 2022. C'est ce qu'on a entendu hier. Alors, autant dire qu'il n'y aura pas de réforme d'ici la présidentielle. C'est ce que vous avez compris, vous aussi.
Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. D'abord, il a mis deux conditions. Celle, effectivement, d'avoir une situation sanitaire maîtrisée, qui ne veut pas dire la disparition intégrale de la Covid-19 dans notre pays, et celle d'une relance économique qui soit stabilisée. Donc, il a dit les conditions, ce que nous étions nombreux à dire ces dernières semaines, d'ailleurs. Les conditions ne sont pas réunies pour le moment présent. Mais, vous savez, la croissance de notre pays se montre de façon extrêmement positive, en croissance plus forte encore que ce que nous attendions. Et peut-être que nous aurons de bonnes nouvelles, ce que je souhaite, d'ici la fin de l'année sur la question sanitaire. Et donc ce débat qui, de toute façon, est devant nous si l'on veut sauver le régime de retraite, nous l'aurons.
Mais vous souhaitez une réforme d'ici la présidentielle? Très franchement, c'est possible dans les trois derniers mois, dans la précipitation pendant la campagne présidentielle?
Moi, je me suis exprimé à plusieurs
reprises avez dit,
en rappelant
pas possible.
Qu'il y avait cette double difficulté, celle de la relance et celle de la situation sanitaire. Ce sont la double difficulté que le président de la République a évoquée hier. Moi, je ne lis pas dans une boule de cristal pour savoir si tout sera réalisé.
Les planètes seront difficilement alignées.
Elles seront difficilement alignées, mais le président de la République a voulu montrer notre détermination. C'est aussi ça, le courage politique.
En même temps, il a demandé au gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux sur ce sujet à la rentrée, mais ils ont tout dit, les partenaires sociaux, ils n'en veulent pas, ni le syndicat, ni le patronat.
Mais la question n'est pas celle de savoir qui on veut ou pas. La question est de savoir si l'on veut ou pas sauver le système des retraites. C'est ça dont on parle. L'année dernière, j'ai vu qu'une caisse de retraite complémentaire comme l'AGIRC Arco avait dû consommer sur une année, du fait de la crise sanitaire, presque le quart de ses réserves cumulées depuis des dizaines d'années. Et donc on peut faire comme s'il n'y avait pas de problème de retraite dans notre pays. Et à un moment donné, se réveiller et se dire « Ah, il y a un problème, alors pour maintenir les retraites, il faut augmenter les impôts. » Parce qu'on peut faire comme Mme Le Pen, qui promet la retraite à 60 ans, mais qui ne dit pas de combien les impôts des Français vont augmenter pour la financer.
Et alors pourquoi pas un référendum après la présidentielle, comme le suggère François Bayrou? Au moins, ce sera clair, ce sera cash.
Si le débat a lieu pendant la présidentielle, il sera construit sur un engagement clair des candidats et de celui ou celle qui sera élu. Et à ce moment-là, il aura un mandat pour mettre en œuvre la réforme sur laquelle il aura été élu.
Donc ce débat aura plutôt lieu à la présidentielle. Et justement, hier, Emmanuel Macron a semblé tracer une feuille de route pour les années à venir. On est d'accord, très franchement, Christophe Castaner, que c'est un président candidat à sa réélection qu'on a entendu hier. Pas plus, pas moins, il n'y a aucun doute pour vous là-dessus.
Président, à la fois dans son intervention devant les Français, puis devant les parlementaires de la majorité, a fixé un cap pour les 10 mois, celle de sa responsabilité présidentielle, et ensuite nous a invités à projeter la France à 10 ans. Et donc on n'est pas dans une logique de candidature, vous savez que un mandat présidentiel c'est 5 ans et c'est pas 10 ans. Mais c'est aussi de la responsabilité du président de la République.
On a compris que c'est 5 plus 5.
Mais tout n'est pas seulement au rythme. Oui, c'est 5 plus 5, mais qu'une seule fois, et donc ça ne fait pas 10 ans pour l'actuel président. Là, on est en train de perdre nos auditeurs sur le sujet. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'attend pas non plus d'un président de la République qui limite son expression à la seule échéance politique. Donc il faut avoir le courage aussi d'aller au-delà, et le président de la République, hier, a fixé avec cette ambition de préserver notre modèle social, y compris quand, quelquefois, c'est douloureux, on vient d'en parler sur les retraites, parce qu'on y tient, et de se projeter au-delà Christophe d'une échéance Castaner, politique.
Vous n'aimez pas la langue de bois. Il vous a dit de reprendre le porte-à-porte. Autrement dit, de vous mettre en ordre de marche pour la présidentielle, de vendre le bilan. Il vous a dit ça hier soir. Et il a même utilisé, et ça a dû sonner agréablement à vos oreilles, le slogan « La France unie ». Vous avez entendu dans le discours, il a dit « La France unie ». Vous savez de qui c'était le slogan de la présidentielle de
François Mitterrand.
De François Mitterrand, ça ne rajeunit personne. Mais vous voyez, enfin quand même...
Vous citez toujours les grands auteurs, Emmanuel Macron.
Un grand auteur pour vous, j'imagine aussi. Mais donc, c'est, très franchement, il est candidat. Pourquoi le cacher?
Il a dit aux députés, faites du porte-à-porte, défendez le bilan, allez au contact des Français. Mais en fait, c'est normal, on est en fin de quinquennat, et si les députés ne commencent pas, et entre nous, ils ont déjà commencé à défendre le bilan, ce serait une erreur. Moi, j'ai attaqué la semaine dernière, je vous l'ai dit à Strasbourg, un tour de France avec les députés de La République En Marche pour justement vendre, expliquer, entendre les critiques sur notre bilan.
Vous souhaitez qu'il soit candidat?
Moi, je souhaite qu'il soit candidat.
Est-ce qu'à la tête de La République En Marche, justement, il faut garder Stanislas Guérini, le patron actuel, pour mener ce combat-là, puisqu'il va y avoir un renouvellement du bureau exécutif et certains disent qu'il faut peut-être changer de tête?
Écoutez, moi je suis dans l'équipe qui est candidat pour le bureau exécutif de La République En Marche, aux côtés de Stanislas Guérini, et c'est lui qui a été à la manœuvre positive pour construire cette liste. Donc je suis parfaitement à l'aise avec Stanislas Guérini, dont je sais la difficulté.
Donc il restera à sa place?
C'est pas moi qui vais décider, ce seront les marcheurs à l'échéance venue.
Et alors, en fin de semaine, vendredi, c'est le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui va être entendu par la Cour de justice de La République. Il risque d'être mis en examen. Est-ce qu'il peut rester ministre? Est-ce qu'on peut avoir un ministre de la Justice mis en examen?
Pourquoi serait-il mis en examen? La procédure, c'est quoi? Et l'affaire, c'est quoi? C'est qu'il y a des magistrats qui ont demandé, le ministère, qui ont demandé au ministre de la Justice, d'abord Nicole Belloubet, puis Éric Dupond-Moretti, d'ouvrir une enquête administrative, une inspection interne sur d'autres magistrats qui auraient peut-être fait une erreur de procédure. Et donc le garde des Sceaux a confié à 4 magistrats chargés de cette inspection le soin d'inspecter. C'est de cela dont on parle. Alors 3 syndicats de la magistrature ont porté plainte dans ce cadre-là. Et donc on est confronté à un choix simple. Soit on décide que dorénavant ce sont les magistrats et les syndicats de magistrats qui choisissent leur patron et qui choisissent le ministre de la Justice. Et à ce moment-là on dit à Éric Dupond-Moretti qu'il ne peut pas rester. Soit on considère que les magistrats sont, comme tous les acteurs et institutions responsables, et ils peuvent faire l'objet d'un contrôle.
Vous laissez entendre que c'est une décision politique de la part des magistrats.
Je laisse entendre clairement que la mise en cause de ces syndicats de magistrats, c'est une décision politique. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit. Dès son arrivée et quand ils ont porté cette plainte, ils ont dit « on veut faire tomber le garde des Sceaux. Donc soit on est dans un pays où le garde des Sceaux est choisi par les syndicats de la magistrature, soit on considère que le garde des Sceaux est légitime à demander de contrôler les magistrats dans ce pays.
Merci Christophe Castaner, bonne journée à vous.
Le face-à-face du matin, Benjamin Sportouche, Christophe Castaner avec du 5 plus 5 égale 10 dedans. Vous réécoutez tout cela, vous avez le podcast évidemment sur l'appli RTL. Restez bien avec nous, il arrive Cyprien Signy pour répondre à toutes les interrogations, les pourquoi de l'été juste après ceci.
RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Signy.
Les pourquoi de l'été, c'est tous les matins avec Cyprien Signy. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous répondez aux questions de nos auditeurs et auditrices. Il n'y a pas de petites questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des bonnes questions comme celle-là.
Bonjour, je m'appelle Jessica, j'ai 36 ans. J'aimerais savoir pourquoi j'ai l'impression d'avoir plus de libido pendant l'été.
Ah, pourquoi?
Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas la seule à le penser, Jessica, puisque 53% des Français avoue avoir davantage envie de faire des câlins l'été. Oui, définitivement, on est en pleine saison des amours chez l'espèce humaine, et ce, pour plusieurs raisons. Alors c'est d'abord une histoire d'hormones, une histoire physiologique. La chaleur et la luminosité stimulent naturellement les glandes qui sécrètent la sérotonine et autres hormones du plaisir qui contribuent à notre bien-être. Idem pour la testostérone responsable de notre libido. Nos sens sont donc déjà plus en éveil. Ajoutez à cela des prédispositions naturelles, le contexte. L'été, on est moins habillé, les corps se dévoilent. À la plage ou ailleurs, les cols roulés et autres vêtements camouflage n'ont plus vraiment de raison d'être. Le simple fait de montrer sa peau fait travailler le cerveau vers plus d'excitation, figurez-vous. Oui, nos tenues vestimentaires, sans pour autant être aguicheuses, érotisent les corps et de facto, sentir le vent directement sur la peau. Marcher pieds nus dans le sable ou dans l'herbe crée des stimuli supplémentaires, des sensations qui peuvent vous apparaître comme anodines, mais qui contribuent, figurez-vous, à mettre en éveil et donc à exciter un peu plus notre système nerveux et nos pulsions. Enfin, et c'est peut-être là que tout se joue selon les sexologues, nous sommes en vacances, ou en tout cas un air de vacances flotte autour de nous. Moins de stress, plus de temps, de disponibilité, moins de fatigue aussi. Une forme de lâcher prise s'installe, de liberté. Vous voyez venir, hein. Résultat, chaleur, soleil, tenue légère et détente. Vous entrez dans le cercle vertueux de l'amour et du désir de l'autre, de la rencontre. Et un nouveau champ des possibles s'offre à vous. Bref, vous avez compris, l'été, on se lâche plus facilement. Après, pas de panique, hein, on se lâche, mais sans forcément de grandes conséquences non plus. Puisqu'en France, on constate tous les ans un pic des naissances autour du 23 septembre, preuve d'une fabrication du bébé entre Noël et jour de l'an. Comme quoi, vous pouvez suivre vos instincts naturels sans prendre trop de risques, puisque finalement, les choses ne sont pas si mal faites.
Voilà Jessica, notre auditrice de RTL a sa réponse ce matin. C'est pour ça, figurez-vous, que Cyprien Signy va dans les pays chauds.
L'été.
L'été, particulièrement. Les pourquoi de l'été, c'est tous les matins de la semaine, pendant ses congés.
À demain.
7h59, Louis Baudin, je vous interroge pas sur la libido, plutôt sur le ciel.
C'est lié à la chaleur, oui, ça va être compliqué.
C'est quoi
aujourd'hui.
Ce bazar encore?
C'est quoi ce bazar, oui. Ben, on peut parler de bazar, effectivement, parce qu'on a vraiment un temps qui est très organisé sur la France. Le centre du système dépressionnaire, il est au milieu de la France. Donc on voit bien qu'on peut pas s'en sortir, parce que les nuages tournent et retournent. On peut voir deux fois le même nuage, bon, c'est un peu une image, mais passer sur la même région, là, au cours de ces prochaines heures, puisque ça circule du sud vers le nord dans l'est, et puis du nord vers le sud dans les régions de l'ouest, puis ça recommence, voilà, et ça va être comme ça toute la journée. Donc ça veut dire qu'on va conserver un ciel très nuageux, peu ou pas d'éclaircies, hein, contrairement à ces derniers jours, donc encore plus gris, les pluies encore plus fréquentes, parfois accompagnées d'orages, surtout cet après-midi, même si on l'a déjà là du côté des Alpes. Et puis au milieu donc de ce tourbillon, il y aura quand même quelques éclaircies supplémentaires, peut-être sur la pointe bretonne et surtout sur les bords de la Méditerranée, où là on aura du Mistral et de la Tramontane jusqu'à 90 km/h, quand même, ce qui n'est pas toujours très agréable. Et puis les températures, ben là, c'est une catastrophe, hein. 18 à 21 degrés seulement cet après-midi au nord comme au sud. Il manque au moins 4 à 6 degrés pour être dans les valeurs de saison, et 26 à 31 quand même près de la Méditerranée.
C'est une catastrophe, oui, vous dit ce matin Louis Baudin pour ce mardi. Malgré tout, bon réveil, gardez le moral, il est 8h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Isabelle Choquet m'accompagne pour toute l'actualité du mardi. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Passe-partout, joli titre ce matin à la une du quotidien Sud-Ouest.
Oui, le pass sanitaire va en effet devenir notre quotidien. Il sera bientôt nécessaire pour tout ou presque aller au ciné, boire un verre, dîner au resto ou voyager, ça en pleine vacances. C'est la méthode forte mais ça marche. 900 000 prises de rendez-vous hier sur le site Doctolib, c'est un record absolu. À suivre également l'inquiétante envolée des noyades, les Français post-confinement ne savent plus nager. Et puis la mobilisation des Tunisiens de France pour soutenir leur pays débordé par le Covid.
RTL Matin.
C'est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Emmanuel Macron n'impose pas le vaccin anti-Covid à toute la population, mais il a décidé de rendre la vie très difficile aux non-vax en étendant l'utilisation du pass sanitaire. Dès le 21 juillet, la semaine prochaine, donc, il sera nécessaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture qui rassemblent plus de 50 personnes. Ça concerne notamment les cinémas. Début août, cette obligation sera étendue aux centres commerciaux, aux établissements médicaux et aussi aux bars et aux restaurants. Dans ce café du 10e arrondissement de Paris, forcément, ça fait réagir Vincent Serrano.
Oui, la nouvelle de ce pass sanitaire qui s'est propagée très vite à toute l'étape de cette terrasse. Il y en a une trentaine ici et notamment celle de Nathalie. Nathalie, vous trouvez ça très bien d'imposer ce pass sanitaire?
Bah, ça va nous permettre de petit à petit ouvrir des lieux qui étaient depuis trop longtemps fermés et on en a trop besoin. Donc voilà, moi, si c'est la solution, la vaccination, quelque part, moi je suis totalement pour. Plus on sera vacciné et moins les variants nous feront peur.
David, vous êtes assis en face d'elle, je vous vois hocher de la tête.
Ah, absolument, oui. Je trouve que c'est une très bonne chose. S'il y a des gens qui veulent faire le choix de ne pas être vaccinés, c'est leur choix. Ils n'ont pas handicapé la vie économique et la vie des autres pour leur choix.
En revanche, c'est beaucoup plus compliqué à admettre pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y en a quatre à la table vers laquelle je m'avance, celle de Vincent. Vincent, vous, vous trouvez ça scandaleux et liberticide?
Moi, je sais pas, c'est de nous priver de liberté retrouvée. Et je comprends pas une telle mesure. Un pass sanitaire ou un pass vaccinal qui ne dit pas son nom, qu'est-ce que cela veut dire? Après, on vérifiera si les gens sont vaccinés contre la grippe, contre d'autres maladies, etc. Je trouve que c'est une conception de la société un peu régressive, quoi.
Vincent, une fois qu'il a terminé son repas, est revenu me voir pour me dire je vais profiter à fond des restaurants jusqu'à la fin du mois de juillet. Et si le gouvernement pense que c'est comme ça que je vais me faire vacciner, il se trompe lourdement.
Reportage RTL signé Vincent Serrano. Notez que le pass sanitaire sera nécessaire aussi pour les salariés des bars et des restaurants, ce qui risque de poser des problèmes de recrutement supplémentaires. Des soucis aussi en perspective à l'embarquement dans les gares et les aéroports, car au mois d'août, il faudra un pass pour voyager, Arnaud Touche.
Oui, tous les trajets longue distance sont concernés, en autocar, en avion, mais aussi en train. On ne connaît pas encore le détail des lignes, mais tous les TGV seront probablement contrôlés et il faudra donc présenter son pass sanitaire à l'embarquement en gare dès le début du mois d'août.
Clairement, là, on n'est même pas en mesure d'effectuer des accueils embarquements et des départs à l'heure en l'état. Hein.
Alexandre Lecomte est contrôleur chez Ouigo et délégué CGT à la gare de Lyon. Et pour lui, c'est impossible à mettre en œuvre.
Pour Ouigo, c'est 1200 voyageurs par train et on est entre 30 et 45 minutes d'accueil embarquement. S'il va falloir contrôler les passes sanitaires un à un, enfin, ça va juste pas être possible. On n'a pas assez de personnel et enfin, c'est juste, enfin, c'est irréalisable.
Pour le syndicat, ces contrôles ne doivent pas être réalisés par la SNCF.
Ça doit être la police présente en gare qui doit vérifier ça. Déjà, le port du masque est déjà assez compliqué à gérer à bord quand on doit verbaliser. Alors, j'imagine même pas pour un contrôle de passe sanitaire.
Concernant les airs, les vols intérieurs pourraient donc aussi être soumis au passe sanitaire à l'embarquement. Idem pour les trajets en bus. Dans tous les cas, le gouvernement devra passer par une loi pour imposer cette nouvelle mesure.
Arnaud Touche, autre mesure phare de l'allocution présidentielle. Comme on pouvait s'y attendre, la vaccination devient obligatoire pour les soignants et même au-delà, pour tous les actifs au contact de personnes vulnérables, et cela avant le 15 septembre. Il y aura des contrôles et des sanctions, dit le chef de l'État. Ça pourra aller de l'avertissement jusqu'au fait de ne plus être payé. Et pour ceux qui voudraient échapper à la vaccination en multipliant les tests, eh bien sachez-le, dès cet automne, ils seront payants, sauf sur ordonnance.
En tous les cas, ces annonces ont eu un effet immédiat, Isabelle. Juste après l'intervention du président, le site Doctolib a été pris d'assaut.
Oui, près de 700 000 rendez-vous ont été pris dans la soirée. 900 000 sur toute la journée, c'est du jamais vu, nous dit Stanislas Nyox-Château, le cofondateur de Doctolib.
L'allocution du président d'hier soir a permis de multiplier par 60 la demande de vaccination avec un record absolu de 20 000 rendez-vous par minute. Et la demande s'est maintenue très forte jusque tard dans la nuit. Et donc, on était prêts. On a augmenté les capacités technologiques de Doctolib hier soir. Et on a surtout mis en place, qu'on avait développé au mois d'avril, une liste d'attente. Donc, si vous arrivez sur Doctolib et vous êtes mis en liste d'attente, c'est simplement qu'il y a des millions de Français qui essayent de prendre quelques centaines de milliers de rendez-vous en même temps. On vous met sur liste d'attente pour que le système marche bien.
Propos recueillis pour RTL par Pierre Collat. Il a beaucoup été question de la crise sanitaire hier soir, mais pas seulement. Emmanuel Macron a également fait le point sur la situation économique de la France. Il prévoit une croissance de 6% cette année, sans doute la meilleure en Europe. Et il annonce un plan d'investissement à la rentrée, Martial You.
Emmanuel Macron tient son slogan « Construire la France de 2030 ». La réforme des retraites, oui, elle aura bien lieu, dit le président. Toutefois, c'est un engagement sans agenda, puisque cela dépend de l'évolution de la situation sanitaire et chaque mois qui passe rend une telle mesure complexe à mettre en place avant la présidentielle. Pourtant, le ton est volontaire, les régimes spéciaux seront supprimés pour les futurs salariés, on devra travailler plus longtemps, mais pas un mot sur le report de l'âge de départ à 64 ans et pas un mot non plus sur une réforme par points qui semble bel et bien enterrée. Les jeunes auront droit à un revenu d'engagement qui ressemble à la garantie jeune réservée actuellement aux moins de 26 ans sans formation ni emploi, mais là encore, pas de précision avant le mois de septembre prochain. En revanche, Emmanuel Macron a acté une croissance plus forte que prévue et plus forte que la moyenne européenne à 6% cette année, une bonne rampe de lancement pour la présidentielle.
Martial Liu, chef du service économie d'RTL.
8h06, Isabelle Choquet revient dans un instant pour vous informer. Bien sûr, on va plonger dans le grand bain, car sachez-le, les Français ont besoin de cours de natation. A tout de suite.
RTL Matin.
C'est un chiffre qui inquiète Isabelle Choquet. On a compté plus de 300 noyades accidentelles en France entre début juin et début juillet.
Oui, des noyades qui ont fait 79 morts. C'est 60% de plus qu'en 2018. Santé publique France met en garde. Avec le confinement, les plus jeunes et les plus âgés ne sont plus en condition pour nager correctement. D'où l'utilité de l'opération Savoir Nager. 4 bassins provisoires sont installés pendant tout l'été dans des communes de Seine-Saint-Denis pour dispenser des cours de natation gratuits. C'est un reportage RTL de Martin Zuber à Clichy-sous-Bois.
Un bassin d'une dizaine de mètres de long posé sur le bitume du complexe sportif et sur le bord, Anna de Souza-Rossa qui donne ses consignes. Elle est la coordinatrice de l'opération Savoir Nager et pour Anna, il y a urgence pour les jeunes enfants.
Souvent, c'est dans les piscines privées. L'enfant échappe à la vigilance du parent. Il va chercher, par exemple, le ballon qui est dans l'eau. S'il tombe à l'eau, grâce au Savoir Nager, il va être capable de revenir au bord.
À l'autre bout du bassin, il y a Benjamin.
Descends un peu plus ta tête. Oui, super, continue, souffle bien dans l'eau. Et puis toi, avec une seule main, c'est largement assez pour toi. Voilà, génial. Tu as fait beaucoup de progrès déjà depuis quelques tours.
Le maître nageur est clair, il faut d'abord enseigner les gestes essentiels de survie.
C'est pour ça que l'opération du savoir nager permet à des jeunes qui n'ont pas eu ce type d'accès de pouvoir se déplacer et se sentir surtout à l'aise dans l'eau et avoir une approche très sécuritaire pour s'allonger sur le dos et sur le ventre qui permettra ensuite aux parents qui partiront en vacances d'avoir des enfants qui se sentent beaucoup plus à l'aise.
L'opération va continuer tout l'été avec pour objectif former 2000 enfants au total.
Reportage RTL signé Martin Zuber. Dans l'affaire de l'étudiant nordiste retrouvé mort vendredi dernier près de l'autoroute A27, l'autopsie a bien été réalisée hier, mais il faut des expertises complémentaires. L'enquête se poursuit. Le chauffeur Uber qui a pris en charge la victime un peu avant minuit n'a toujours pas été identifié. L'épidémie de Covid rebondit dans toute l'Europe, mais ailleurs aussi. En Tunisie, par exemple, où la situation sanitaire est tout simplement catastrophique. Le gouvernement évoque un effondrement du système de santé. Les hôpitaux sont à court d'oxygène. Des patients qui suffoquent sont renvoyés chez eux, faute de lits. Alors la diaspora tunisienne installée en France se mobilise. Dans les bagages des vacances, il y a souvent du matériel médical. Reportage RTL à Tunis de Mathias Reynal.
Le téléphone d'Adil Azouni sonne sans arrêt. En 48 heures, il a reçu
une vingtaine de messages à part les commentaires
qu'il n'arrive pas à lire vu le nombre élevé de notifications. Le jeune homme de 26 ans essaie de répondre à tout le monde. Ça a commencé par un message posté sur Facebook.
Vu que ma mère elle a une petite société de transit, on a pensé de proposer ce petit service. Malheureusement, les Tunisiens résidant à l'étranger, ils ont du mal à ramener de l'aide pour leur patrie, c'est des problèmes avec la douane.
Donc, sa maman, Saïda, donne donc des conseils. Anas Sassi, un Tunisien qui vit en France, a pu en profiter.
Madame Saïda, donc elle m'a aidé, elle m'a expliqué la procédure. Ce que je compte faire, c'est d'amener un concentrateur le mois prochain.
Un concentrateur d'oxygène, considéré comme un bagage personnel. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de la douane tunisienne qui a tenté de rassurer la diaspora. Aucune procédure particulière, aucun frais ne seront appliqués.
Reportage RTL de Mathias Reynal à Tunis. L'ouest des États-Unis et du Canada en pleine fournaise. La région subit une vague de chaleur intense avec une énorme sécheresse. Résultat, les feux de forêt se multiplient. Des centaines de milliers d'hectares sont déjà partis en fumée en Californie, dans l'Oregon ou en Arizona. Les autorités locales ont décidé de rationner la consommation d'eau et aussi d'électricité pour éviter un blackout.
Après une journée de repos en Andorre, le Tour de France cycliste reprend sa route à travers les Pyrénées.
16e étape aujourd'hui entre Pas-de-la-Case et Saint-Gaudens et ce ne sera pas une promenade de santé. Au programme, 4 côtes répertoriées, dont un col de première catégorie, le col de la Corre. Tadej Pogacar est toujours en jaune avec plus de 5 minutes d'avance sur ses poursuivants.
RTL, le carnet de route de Laurent Jalabert.
Et bonjour Christophe Pacaud.
Bonjour à tous, bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour.
Sur votre carnet de route, on va en voir de toutes les couleurs cette semaine encore.
Oui, c'est une histoire haute en couleurs qui nous attend cette semaine avec des maillots en jeu. Alors le jaune en principe et le blanc, si ça se passe comme ça s'est passé jusqu'à présent, je vois mal comment ça pourrait changer. Pogacar semble bien installé dans un fauteuil, sur son trône même, en direction de Paris. Personne n'ose vraiment l'attaquer. En revanche, pour les autres classements, attention, la montagne, les petits pois, vous savez, le maillot blanc, poids rouge, là, sur les trois journées qui arrivent, il va y avoir de la bagarre. Les quatre premiers se tiennent en 10 points seulement. Ça va être une course engagée avec tous ces cols à franchir. Et ce, dès à présent, hein, dès aujourd'hui. Et puis, il y a toujours l'interrogation autour du vert. Certes, Cavendish est le plus rapide. Il l'a montré à plusieurs reprises sur ce tour. À quatre reprises, il a remporté des étapes. Mais il faut arriver à Paris pour amener le vert. Et il le sait bien. Donc, ces Pyrénées, elles vont être terribles pour lui aussi. Il va falloir qu'il s'accroche et qu'il rentre dans les délais. Donc, une histoire autant couleur toute la semaine, oui.
Et courage à tous ces coureurs qui vont s'élancer tout à l'heure à 13h30 du Pas de la Case. On se retrouve à 10h justement pour présenter l'étape du jour, Laurent Jalabert. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Laurent Jalabert avec Christophe Pacaud, le carnet de route. Et deux informations foot pour terminer. D'abord, le soulagement à Bordeaux. La reprise du club par l'homme d'affaires Gérard Lopez est validée. Les Girondins peuvent donc rester en Ligue 1 la saison prochaine. Et puis, soulagement aussi pour le SCO d'Angers qui avait été rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire. Il peut finalement, lui aussi, se maintenir dans l'élite.
Isabelle Choquet pour toute l'actualité et l'appli RTL à disposition.
Dans les pas de l'empereur. Samuel Goldschmidt sur RTL.
8h13 en cette année 2021, vous le savez, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte et nous vous proposons chaque mardi matin de l'été une excursion dans les hauts lieux de cette épopée avec aussi au passage une incursion dans le passé. Aujourd'hui, Samuel, première étape, là où tout a commencé, en Corse, à Ajaccio.
C'est ici à Ajaccio, que cette folle histoire commence. La Corse sort tout juste de 500 ans de domination génoise, d'où cette maison natale très italienne sur laquelle veille le conservateur Jean-Marc Olivesi.
La maison Bonaparte, elle est en plein milieu de la ville génoise. C'est un espace urbain très serré, comme les Gênes d'ailleurs. Les rues sont très étroites. Lorsqu'on se penche à la fenêtre, on voit la mer des deux côtés de la rue. D'un côté, c'est ce que nous appelons la plage Saint-François. De l'autre côté, c'est l'ancien port d'Ajaccio. Parce que la ville génoise est construite sur une sorte de presqu'île. Et cette rue transversale va d'une rive à l'autre de cette presqu'île. Et au bout, il y a la citadelle.
En ce 15 août 1769, Laetitia Bonaparte ressent les premières douleurs pendant la messe dans la cathédrale. Elle n'a que 100 mètres à parcourir en toute hâte pour rentrer à la maison et donner naissance dans cette pièce simple à l'étage à Napoléon.
Napoléon, à Sainte-Hélène, va dire « Je suis né sur des tapis qui représentaient les combats de l'Iliade, des combats antiques, qui auraient marqué son destin. » Et Laetitia, lorsque le journaliste américain Henry Lee l'interview à Rome en 1835 environ, va dire « Non, il n'y avait pas de tapis dans nos maisons de Corse et encore moins en été qu'en hiver. » On voit bien la volonté de créer la légende à Sainte-Hélène de Napoléon et le côté très pragmatique de Laetitia, ce côté pragmatique qui lui a permis d'élever ses enfants dans des circonstances parfois très difficile.
Son père Charles est un notable, petite noblesse, député, très cultivé. La maison est remplie de livres. On connaît par cœur les opéras de Vivaldi. Laetitia règne fermement sur ses enfants qui seront 8. Elle les élèvera pratiquement seule, car Charles va disparaître terriblement jeune, un trait des Bonaparte auquel on ne prête pas assez d'attention pour Antoine-Marie Graziani, historien à l'université de Corse.
Napoléon meurt à 52 ans. Il meurt à 52 ans, son père est mort à 39 ans. Et si je remonte l'arbre généalogique, aucun des Bonaparte n'a dépassé 55 ans. Et ça, c'est quelque chose qui a un poids tout à fait fondamental. Ce sont des gens qui vivent dans le temps rapide. Et ça peut effectivement expliquer le fait d'être pressé continuellement par le temps qui passe.
Mais pour l'heure, le jeune Napoléon grandit dans ses rues. On ne roule pas sur l'or chez les Bonaparte. Je suis allé voir la maison de Napoléon, écrira Balzac 70 ans plus tard, et c'est une pauvre baraque. Une baraque qui va pourtant très vite passer à la postérité.
Il faut imaginer que cette maison, c'est un temple pendant tout le 19e siècle. Lascaz raconte que les soldats de la Grande Armée venaient embrasser les tomates qui sont au sol. On a un très beau passage du jeune Flaubert qui vient et qui décrit cette chambre dans son voyage en Corse. Et puis, on sait que des personnages comme Élisabeth d'Autriche, la fameuse Sissi, est venue à plusieurs reprises et lorsque son yacht accostait à Ajaccio, elle descendait immédiatement à terre et elle se faisait enfermer une heure ou deux dans cette chambre natale pour méditer sur le destin de Napoléon. Elle, sa couronne impériale lui pesait et elle ne comprenait pas qu'il ait voulu devenir empereur.
Car Napoléon devenu empereur, effectivement plus rien de ce qu'il aura touché, aucun endroit où il est passé ne restera ordinaire. Il aura le monde entier à ses pieds. Philippe Perfettini est le conservateur du musée Fesch d'Ajaccio.
Quand vous avez des ambassadeurs comme Victor Hugo, comme Balzac, comme Stendhal, même Chateaubriand qu'il détestait, mais pourtant il a écrit, Chateaubriand a écrit quelques-unes des plus belles phrases sur Napoléon. Le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine, par exemple. Bah, vous lisez ça, merde, c'est pas moi qui le dis, c'est Chateaubriand. Goethe qui rencontre Napoléon et qui raconte 30 ans plus tard, c'était un être d'ordre supérieur, c'est Goethe, c'est Goethe. Oui, il y a un truc, il y a un truc.
Mais rien de tout cela pour l'heure. Dans les rues de l'Ajaccio génoise, un petit garçon joue peut-être à la guerre avec d'autres enfants du quartier. Un petit garçon qui va devoir grandir d'un coup quand il va partir à l'âge de 9 ans pour le continent.
Dans les pas de l'empereur, c'est passionnant. C'est signé Samuel Goldschmidt. À faire écouter aux petits et aux plus grands. Vous avez le podcast disponible sur l'appli RTL. 8h18, pas vacciné, pas payé. La vaccination obligatoire pour les soignants, c'est décidé. Emmanuel Macron l'a annoncé hier. Alors on explique dans un instant et on commente. À tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin jusqu'à 9h15. Avec Stéphane Carpentier.
8h19, vaccination des soignants, passe sanitaire étendue. On va revenir sur les annonces du président hier soir pour faire face à la progression du variant Delta. Et la parole ce matin à un acteur du secteur médical au cœur du débat, un infectiologue. Bonjour docteur Davido.
Bonjour à tous.
Merci d'être en direct, infectiologue et référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Docteur, ça y est, tous les soignants, mais aussi les professionnels au contact des personnes fragiles vont devoir se faire vacciner. Ça va devenir obligatoire. Vous vous étiez assez mitigé sur la mesure. Est-ce que vous auriez pu imaginer qu'on arrive à ça?
Oui, je m'en doutais. J'avais même préparé les équipes qu'à la rentrée en septembre, la vaccination sera obligatoire et que c'est pour ça qu'il fallait d'ores et déjà se faire vacciner pour gagner du temps. Et encore une fois, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tant une vaccination obligatoire des soignants, c'est la vaccination pour tous. Et c'est bien ça qui prime, c'est-à-dire qu'on doit jouer collectif pour reprendre notre vie d'avant et avant d'être soignant, nos concitoyens. Et je pense que le bon sens aujourd'hui va l'emporter et je m'en félicite.
Vous n'êtes pas inquiet? Vos collègues, ils ont reçu le message autour de vous?
Oui, bien sûr. Vous savez, d'ores déjà, à la PHP, il y a des cellules qui se sont organisées pour pouvoir reprendre à une cadence soutenue la vaccination. Et encore une fois, les soignants étaient en grande partie résignés. Je pense que certains étaient dans l'hésitation et avaient besoin finalement d'un starter. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de l'hôpital, le starter vient de l'extérieur, parce que la réalité, c'est que les médecins sont majoritairement vaccinés. Comme vous le savez, plus de 95% à la PHP. Ce sont les infirmières pour quelques-unes et surtout les aides-soignantes. Mmh. Et je pense que ces mesures-là, à l'extérieur de l'hôpital, vont être pour eux décisives pour y aller.
Alors, on a compris hier soir, docteur, que les soignants non vaccinés au 15 septembre ne pourront plus travailler et ne seront même plus payés. Donc, pas vaccinés, pas payés. Ça, c'est un message que vous pouvez entendre?
C'est un message surtout extrêmement compliqué sur le terrain parce qu'on sait qu'on a eu besoin pendant la deuxième et la troisième vague de tous les bras qui pouvaient nous aider et très clairement il va falloir que, encore une fois, le bon sens l'emporte et j'espère qu'on n'aura pas des démissions parce que la réalité c'est que tous ces soignants, on a besoin d'eux à l'hôpital et encore une fois, je pense qu'il va falloir de la pédagogie pour les accompagner et c'est pour ça qu'on est là sur le terrain.
Docteur Davido, vous avez prononcé le mot de démission, ça voudrait dire qu'il y aurait des professionnels de santé qui refuseraient le vaccin et qui pourraient jeter l'éponge, quitter leur profession?
Alors il faut savoir qu'on regarde les statistiques, je crois que c'était 40%, notamment des paramédicaux, c'est-à-dire infirmières et aides-soignantes, qui après la deuxième et la troisième vague avaient dit qu'à la rentrée elles souhaitaient changer de métier tellement le monde de l'hôpital était devenu difficile. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir les accompagner. Il y a déjà un accompagnement psychologique, il faut le savoir, pour beaucoup de professionnels de santé. J'espère que les vacances seront vertueuses et j'espère pour ça que le variant Delta va nous laisser un petit peu au calme pour que tout le monde se ressource, reprenne ses esprits et fasse le bon choix à la rentrée.
Alors le remboursement des tests de confort, ce sera à partir de l'automne, docteur Davido. Est-ce que ça c'est une bonne idée? Ça va dans le bon sens.
Oui, je pense que en fait toutes les mesures qui étaient annoncées hier sont des mesures cohérentes dans le cadre de l'incitation et pas complètement des mesures coercitives. Je crois pas qu'il faille les voir comme ça. Parce que la réalité aujourd'hui, un vaccin coûte moins cher que de réaliser deux tests et que quand on contrôle une épidémie, eh bien on ne fait plus de tests. Et c'est ça finalement la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on est en train de toucher du doigt la fin de l'épidémie. À partir du moment où on considère qu'il y a des tests de confort, on va se retrouver finalement comme en février-mars 2020, souvenez-vous, où on ne testait que les les formes graves à l'hôpital. Et le test, était un sésame très particulier lorsqu'on était malade. Et il faut en revenir aux fondamentaux. C'est bien ça l'objectif d'un test, c'est de dépister les malades.
Vous nous disiez tout à l'heure, j'espère que le Delta va nous laisser tranquille au cœur de cet été. Et pourtant, ça monte à peu près partout. Quelle est la situation concrète, par exemple, dans un hôpital comme le vôtre ?
Écoutez, vous avez raison. La particularité, c'est qu'on voit tout de même quelques cas. Et ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des cas atteints évidemment par le variant Delta et qui sont des gens de plus en plus jeunes, avec parfois des formes sévères et dans de rares situations, des gens qui n'ont pu avoir qu'une seule dose de vaccin, ce qui montre à quel point il est important d'avoir un schéma vaccinal complet et qu'il va falloir aussi qu'on accélère cette campagne de vaccination. Et je me félicite de voir qu'hier, il y a déjà eu 1 million de personnes qui se sont inscrites, parce qu'à ce rythme-là, ça veut dire qu'en un mois, on est capable de vacciner l'ensemble de la population française.
Ça veut dire que les menaces, le fait d'être grondé comme ça, ça fait réagir les Français.
Ben disons qu'en fait, je pense qu'il manquait encore une fois un starter, un bénéfice, on va dire une carotte plutôt qu'un bâton. Et aujourd'hui, finalement, le retour à la vie d'avant, c'est peut-être la meilleure récompense pour les inciter. Et clairement, je pense qu'il va falloir aussi que ces mesures qui sont, je l'espère, et seront appliquées en France le plus vite possible, puissent être appliquées à d'autres niveaux, au niveau européen notamment. Pourquoi ? Parce qu'on a un pays qui partage beaucoup de frontières et qu'il faut qu'on soit cette fois-ci dans l'exemplarité et qu'on réussisse les premiers.
Je reviens justement à ceux qui arrivent dans les hôpitaux en ce moment. Est-ce que ce sont des vaccinés ?
Alors, comme je vous disais, pour un rare nombre des gens qui ont eu qu'une seule dose, malheureusement, et qui n'ont pas pu faire la deuxième, ça montre bien le fait qu'il faut avoir deux doses pour être protégé contre les formes graves. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de malades qui ont des formes graves avec un schéma complet vaccinal, notamment ARN messager, mais ça montre bien justement qu'aujourd'hui, les industriels qui avaient prévu ces vaccinations rapprochées à 3 semaines avec 2 doses avaient raison, et que c'est bien ça vers quoi il faut tendre, et qu'il va falloir de toute façon accélérer cette campagne de vaccination pour qu'on puisse remettre les compteurs à zéro le plus vite possible, à défaut de pouvoir remonter le temps.
Il faut que ce soit l'été du vaccin, quoi.
Exactement, il faut que ça soit, j'avais dit en début d'année, c'est 2021 sera l'année du vaccin. Il faut que cet été, cette fois-ci, on soit le vent dans le dos, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir finalement doubler le virus, parce qu'on l'oublie, mais la vaccination, c'est un traitement, un médicament préventif. C'est-à-dire qu'il faut vacciner lorsque l'épidémie est contrôlée et pas quand elle nous échappe, sinon évidemment on la perd de route.
Docteur Davido, si j'ai bien compris Emmanuel Macron hier soir, il nous annonçait que pour 2021 il y aurait les complications jusqu'au bout, quelques mois en 2022. Est-ce qu'on peut pronostiquer la suite justement ?
C'est très difficile parce que ça va dépendre encore une fois de la capacité, j'ai presque envie de dire d'abord que l'Europe et le monde entier se vaccinent. Pourquoi ? Parce que le risque, c'est d'avoir un échappement avec ces différents variants et de se retrouver dans un scénario où il faudra faire des rappels réguliers. La bonne nouvelle, c'est que les vaccins ARN messager peuvent être mis à jour rapidement. Moi j'avais dit, on m'avait déjà demandé de pronostiquer, j'avais dit l'accalmie en Europe probablement 2022 et puis le retour à la vie d'avant 2025, parce que l'enjeu encore une fois, c'est que toute la planète puisse être vaccinée. 1% aujourd'hui en Afrique, vous vous rendez compte ? On est loin de l'accomplissement de quelque chose de grandiose comme face aux autres maladies infectieuses virales. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il n'y a qu'une seule hésitation, c'est le bras gauche ou le bras droit, et y aller.
Et pour terminer, docteur Davido, on avait échangé ensemble au printemps 2020. Vous nous disiez, une épidémie, c'est 2 ans. Ben, ça va être 2 ans, quoi.
Ben oui, je crois qu'encore une fois, surtout une épidémie, ou plutôt sa fin, c'est le remède, l'antidote, le meilleur rempart, la vaccination. Et ensuite, il faut pouvoir mettre en musique cette partition, et cette partition, c'est bien la campagne de vaccination. Et aujourd'hui, je me félicite que ces deux outils du 21e siècle qui vont nous sortir de cette pandémie, un vaccin ARN messager dont on n'avait pas vu poindre le bout de son nez il y a encore quelques mois, et un outil numérique dont les jeunes sont friands, et c'est bien cette jeunesse qui va nous sortir de cette pandémie.
Merci de nous avoir éclairé, docteur Davido. C'était précieux de vous écouter une nouvelle fois ce matin. Infectiologue et référent Covid à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Entretien qu'on va retrouver très vite sur l'appli RTL. Restez bien là, on va rigoler avec les grosses têtes. Et beaucoup moins à rigoler, sachez-le, avec Louis Baudin pour la météo. A tout de suite.
RTL Matin.
8h28, la mission des grosses têtes, nous instruire, nous faire rire, bien sûr, mission accomplie toute cette saison. Laurent Ruquier vous attend donc cet après-midi pour le meilleur, 15h30.
Vous n'avez jamais vu de l'autre, Caroline ?
Mais écoutez, je suis née à Paris, je vis à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. Non, parce que ma mère avait peur que les tigres ou les lions nous bouffent.
Souvent, il y a une cage, hein, souvent. Hein.
Mais non, mais excusez-moi, il y avait un zoo il y a quelques années où il y avait 2 hyènes qui étaient sorties, qui avaient bouffé un bébé. Alors je vais vous dire, ça arrive rarement, mais quand ça t'arrive à toi...
Et pourquoi vous auriez mangé un bébé, vous et votre mère?
Les loutres, on a vu des documentaires sur les loutres.
Bien
elles sont
sûr.
Toujours.
Mais moi,
en train
j'ai une vie, Isabelle.
Ouais, elles vivent sur le dos.
Elles sont très maniérées.
Mais où est-ce que vous avez vu des loutres, vous alors,
ben moi, j'en ai vu dans des zoos beaucoup. Et je les ai
dans des zoos ?
Oui.
Les zoos, les grossettes, Laurent Ruquier, rendez-vous cet après-midi, 15h30, 18h. Louis Baudin.
Oui.
C'est quoi ces températures ?
Vous êtes sûr ? Oui, bah, tiens, commençons par
les températures. Par le meilleur.
7 degrés à Mende en ce moment, 10 degrés à Millau, encore au Puy, on est souvent entre 10 et 15 degrés. Mais ça, c'est la température sous abri. Si vous ajoutez l'humidité ambiante, ça donne une impression encore plus désagréable. Voilà. Pour ceux qui aient du ciel, bah, ça reste très nuageux. Encore plus de nuages qu'hier. Hier, il y avait au moins l'espoir d'avoir quelques éclaircies entre deux averses. Là, c'est même pas sûr. Des endroits, ça restera gris toute la journée et pluvieux, je pense notamment à la moitié ouest, sauf sur la Bretagne, où là, on aura quand même quelques éclaircies, peut-être également sur le littoral de la Manche, mais les autres régions de la moitié ouest, ça sera nuageux toute la journée, avec de la pluie et même parfois de l'orage, notamment autour du Massif central. Dans l'est, bah, c'est la même chose, en fait, ça reste là aussi couvert et pluvieux, des orages violents, notamment entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace. Il faudra aller sur les bords de la Méditerranée pour avoir du soleil, mais beaucoup de vent. 90 km/h, 100 km/h, peut-être aux extrémités de la Corse, et les températures après celles du matin ne dépasseront pas les 18 à 21 degrés dans le nord comme au sud. 18 à 21 degrés, je parle bien des maximales, hein. 26 à 31 degrés près de la Méditerranée.
Tout cela en ce mardi 13 juillet. Alors face à tout cela et les caprices du ciel, on vous remonte le moral avec le grand jeu RTL de l'été. Et tout plein de cadeaux rien que pour vous, chers auditeurs. Il faut vous précipiter dès maintenant. Bonne chance. Ça se passe au 3210 pour le standard 3210. Ou alors vous envoyez RTL par SMS au 74 900, 75 centimes par SMS. Deux chances de cadeaux ce matin. Soit un week-end de détente et de remise en forme dans une thalasso. Ou alors un super ordinateur portable de la célèbre marque à la pomme. 3210 ou alors RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à vous tous. Faites vite le verdict avant 9h.
Passez une bonne journée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin.
Avec Stéphane Carpentier.
Et Hortense Crépin pour les essentiels de l'actualité.
926 000 rendez-vous de vaccination pris hier sur Doctolib et notamment après les annonces d'Emmanuel Macron pour faire face au variant Delta. Pass sanitaire obligatoire à partir du 21 juillet pour pouvoir se rendre au cinéma ou encore au théâtre. Concrètement, dans tous les lieux de culture et de loisirs de plus de 50 personnes. Ce sera même le cas dès demain si vous voulez assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Puis début août, pass sanitaire obligatoire dans les cafés, les restaurants, même en terrasse ou encore pour prendre l'avion. Les Français avaient peut-être besoin de ce petit coup de pression, selon le chef des députés LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner, invité tout à l'heure sur RTL. Et puis attention, à partir de l'automne, plus de remboursement pour les tests PCR, il vous faudra une ordonnance. Concrètement, donc, la vaccination n'est pas obligatoire, mais ce sera bien le cas pour les soignants. Ils auront jusqu'au 15 septembre pour recevoir leurs deux doses, sinon des sanctions comme une mise à pied ou un retrait de salaire seront prononcées. Enfin, sur le plan économique, la réforme de l'assurance chômage entrera bien en vigueur. Ce sera le 1er octobre. Quant à la réforme des retraites, le chef de l'État renvoie au moment où les conditions sanitaires seront réunies. Dans le reste de l'actualité en cyclisme, 16e étape du Tour de France. Aujourd'hui, départ à 13h30 depuis le Pas de la Case en Andorre pour 169 km vers Saint-Gaudens en Haute-Garonne. Pogacar toujours en jaune, étape à suivre en fil rouge sur RTL toutes les demi-heures. Et puis à 18h30, le club Jalabert avec Christophe Paco. Enfin du rugby avec à midi le deuxième match de la tournée d'été du 15 de France en Australie, presque une semaine après leur défaite dans les toutes dernières secondes à Melbourne.
Merci, on sait tout, c'est signé Hortense Crépin.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Et demain.
Et demain, après un an et demi de crise sanitaire, RTL vous propose cet été un horizon, un regard vers plus tard avec une personnalité, un entretien pour mesurer l'impact du virus et comment vivre au mieux la suite. Ce matin, discussion entre Guillemette Franquet et Théo Curin, nageur handisport, nageur comédien qui symbolise parfaitement l'optimisme.
Salut! On va se tutoyer.
On se tutoie?
Oui.
Bon. Alors, comment vas-tu?
Ça va très très bien. Un petit peu fatigué parce que j'enchaîne pas mal de choses en ce moment entre les entraînements, un peu de promo aussi pour une émission. Donc, franchement, c'est un peu la course, mais c'est bon signe.
C'est sobre chez toi. On pourrait imaginer qu'il y ait, je sais pas, une médaille ou...
Il y en a deux là. L'Ironman Et ma première médaille internationale.
Donc toi, tu as fait un half Ironman, c'est-à-dire une espèce de performance de triathlon.
Ouais. En fait, juste après le premier confinement, j'étais un peu fatigué. J'avais besoin d'un nouvel objectif, sortir un petit peu de cette période assez complexe pour tout le monde. Et le seul défi que j'avais à portée de main rapidement, c'était ce half Ironman. Le half Ironman, j'y connaissais pas grand chose. Je savais juste que c'était un triathlon longue distance. C'était pas facile, mais c'était incroyable.
Si tu devais penser un mot pour qualifier le Covid, quel mot tu utiliserais?
Ce serait l'inattendu. L'inattendu parce que après, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu venir. Moi, par contre, pas du tout. Je me souviens très bien que j'étais encore à Vichy à ce moment-là avec mes potes, avec mes camarades d'entraînement et tout. Et quand on nous dit il faut rentrer chez vous pour une période indéterminée, moi, je m'attendais à une ou deux petites semaines de vacances supplémentaires. Pas du tout. On a été confinés pendant plusieurs mois. Donc, ouais, ce serait l'inattendu parce qu'on l'a pas du tout vu arriver. Et c'est surprenant. Ouais.
Qu'est-ce qui nous manquait dans le monde d'hier qu'on aura dans le monde de demain?
Je pense qu'on a tous trouvé au fond de nous, avec cette période assez difficile en 2020, un peu de courage, un peu d'idées, sortir un petit peu de sa zone de confort. C'est vrai, on avait tous un peu notre train-train, et là, du jour au lendemain, et ben, il fallait s'adapter un peu autrement, se lancer d'autres défis. Et justement, c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de reprendre un petit peu les choses en main et de me lancer de nouveaux défis. Je faisais face à des problèmes de classification dans le paralympisme aussi. C'est-à-dire que je nageais avec des mecs qui avaient leurs deux mains, donc j'étais hyper désavantagé. J'avais aucune chance de faire des médailles aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Donc je me suis dit, je vais me lancer un nouveau défi en remplaçant ces Jeux de Tokyo. Et ça a commencé comme ça.
Le projet, en fait, c'est donc de partir en Amérique du Sud et de traverser avec deux camarades le lac Titicaca, qui est quand même très long, 122 km, c'est ça?
Exactement, c'est hyper excitant. C'est 122 km de nage minimum, parce qu'on ne va pas forcément nager super droit, parce qu'on est en totale autonomie. Et puis l'eau est à 10 degrés. Voilà, c'était un petit peu le pompon.
Est-ce qu'il y a un son, un film, une musique qui, pendant le Covid, a été importante, qui t'a apaisé, qui t'a accompagné l'année dernière?
Il y a plusieurs musiques qui m'ont accompagné pendant le confinement, mais j'ai découvert un artiste, un duo qui s'appelle Anome. C'est un rappeur qui est juste incroyable, qui est français.
On peut écouter?
Allez, on écoute, il n'y a pas de souci. Alors c'est très tranquille, c'est du rap chill, quoi.
Je gratte ça à 54% de batterie. 1h du mat, et c'est sous la nuit. Regarde à l'horizon, ouais, j'écarte l'ennui. Je balance un écrit, les lampadaires scintillent. Assis devant SL, je contemple ma ville. La santé, la vie.
Eh bien, merci beaucoup, Théo.
Bah, merci à toi, Guimet. C'était très sympa. À très bientôt.
Ce soir, il y a que ça qui m'anime. T'attends juste cette rime qui te fera tourner la tête. Promis, je ferai pas la tête, je m'éclaire que dans mes lignes. Ouais. Tout n'est pas si rose que ça peut le devenir. Moi, c'est en violet que je vois l'avenir. Mélange les couleurs pour éviter le pire. Et je me cache sous stylo quand ça va pas. Non, je me casse tout là-haut, checker les chers pas. Non.
Et demain, les entretiens de Guillemette Franquet avec des personnalités. C'est tous les matins de l'été sur RTL, 8h37. Laissez-vous tenter version été, c'est dans un instant. On va à Cannes, sur la Croisette. À tout de suite. Et moi je dis Cannes, absolument. À tout de suite.